Jean Galliardi, conférence du 15 avril 2020, introduction à l'interprétation des rêves. Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc bonsoir, c'est vraiment un grand plaisir de vous voir. On est maintenant 46 en ligne. Et donc bon, j'ai intitulé un peu pompeusement cette soirée cours d'introduction à l'interprétation des rêves. Je l'envisage vraiment comme une conférence atelier. Hein, donc encore une fois avec une part. J'utilise un élément externe pour l'enregistrement parce que je ne peux pas enregistrer en vidéo, sinon ça va être trop lourd. Je ne fais qu'un enregistrement audio. D'accord. Donc je reprends. Donc mon but ce soir, vraiment dans une visée didactique, une visée pratique, de vous communiquer des outils et des concepts. Les concepts parce que les concepts c'est du vocabulaire. C'est des vocabulaires qui permettent de se comprendre quand on parle de quelque chose. Et il se trouve que les concepts permettent de structurer une pensée. Donc je vais vous parler essentiellement des concepts de Carl Jung. Mais ce qui m'intéresse surtout à travers ça, c'est de vous communiquer des outils. Mon intention, au travers de cette conférence, atelier, c'est vraiment de vous inviter à vous risquer au travail avec vos propres rêves et avec les rêves des personnes qui vous proposeront des rêves, sachant que c'est pas une science exacte. Et que donc, oui, ce soir, ce n'est qu'un cours d'introduction qui peut être largement enrichi, chaque point peut être approfondi, mais mon objectif ce soir, c'est vraiment vous donner une introduction complète, c'est-à-dire que vous ayez à peu près tous les éléments qui permettent, entre guillemets, de se jeter à l'eau, de plonger dans la piscine. Donc pour commencer, je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, ça fait bientôt 40 ans que je me passionne pour les rêves, ce qui ne me rajeunit pas, parce que c'est ça, je suis tombé dans la marmite quand j'avais à peu près 15 ans. Et puis j'y ai trouvé quelque chose de tellement essentiel, comme l'air qu'on respire, que je n'ai pas arrêté depuis de me passionner vraiment spécifiquement pour le rêve. C'est-à-dire que je ne me présente pas, par exemple, en tant que psychologue avec toute l'assise psychologique, mais je serais plutôt vraiment onirologue. C'est-à-dire que j'étudie spécifiquement le rêve et à travers le rêve, la conscience. J'ai acquis une formation en analyse jungienne au travers de la voie la plus classique qui soit, qui est une très longue analyse. Et au cours de cette analyse, j'ai eu la chance aussi d'approcher les rêves de toutes sortes d'autres façons, en particulier par la gestalt, par le focusing, par des méthodes impliquant le corps ou les émotions. Et j'ai aussi élargi avec, j'étais au Québec à l'époque, en suivant une formation de psychologie sacrée de l'école au rite de passage, et en fait en allant chercher des éléments dans des voies spirituelles comme le chamanisme, le bouddhisme, ce qu'on appelle en général le dharma. Un de mes grands intérêts a toujours été de faire se rencontrer les rêves, l'analyse des rêves et la méditation. Ça a vraiment été mon champ de recherche. Et en fait, j'ai beau avoir pris plein de voies, exploré plein de voies, je suis toujours revenu à Jung. Et c'est pour ça que je tiens à vous présenter l'approche jungienne ce soir. C'est parce que je considère que toutes les voies d'accès aux rêves sont valables. Vraiment, depuis que Jung est mort en 61, il y a une cinquantaine de méthodes différentes de travail avec les rêves qui ont été développées. Et moi, je suis convaincu que si Jung avait été vivant, il les aurait toutes étudiées, parce qu'il n'était absolument pas fermé sur un dogme. Et toutes ces voies sont valables, toutes ces voies sont intéressantes, comme sont valables toutes les voies qui permettent de grimper une montagne. La seule question, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas un moment quelqu'un qui dit « voilà, ma voie, c'est la seule voie, et la voie unique, et toutes les autres ne valent rien ». Et généralement, cette personne-là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de planter un bivouac à mi-hauteur dans la montagne et de dire « j'irai pas plus loin ». Et là, c'est dommage de s'arrêter. Donc c'est pourquoi c'est vraiment intéressant d'étudier toutes les voies, et Jung a ça de particulièrement intéressant selon moi, c'est qu'il fournit un cadre conceptuel, puis un cadre méthodologique qui permet d'intégrer les différentes voies spirituelles, les différentes voies psychologiques, les différentes approches. Il a vraiment fourni une base sur laquelle on peut se reposer sans s'arrêter nécessairement. Ce qui m'amènera, moi, à vous proposer une approche des rêves, une appréhension des rêves que je qualifierais de psychospirituelle, c'est-à-dire que tout à la fois je m'intéresse fondamentalement à la psychologie et la psychologie des profondeurs, mais j'estime nécessaire d'avoir toujours une visée qui tend vers le spirituel, c'est-à-dire en fait la dimension existentielle, la dimension du sens de l'existence. Pour reprendre les mots d'un de mes enseignants, le travail des rêves, il disait, si le rêve est une énigme, la plus grande énigme est certainement l'existence. Pourquoi nous existons? Et peut-être que d'apprendre à déchiffrer les énigmes du rêve nous permet de mieux comprendre l'énigme de l'existence. C'est vraiment une formule qui, à l'époque, quand je l'ai entendue, m'a parlé profondément. Donc, au fond, le travail d'interprétation du rêve que je vais vous proposer, ben, c'est un jeu autour des énigmes. Des énigmes du rêve. J'ai, par rapport à ça, je ne cacherai pas aussi que je suis dans une position, je dirais, militante, au sens où j'estime que c'est vraiment important et essentiel aujourd'hui de communiquer les outils, il n'y a pas que le rêve, mais les outils qui permettent d'être en contact avec notre intériorité, avec, oserais-je dire, notre âme. Et pour moi, l'immense valeur du rêve, la plus grande, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de raisons de s'intéresser aux rêves, ça nous équilibre, ça peut nous prévenir, ça nous conseille, etc. Mais c'est que ça nous confère une autonomie spirituelle. C'est-à-dire qu'enfin, nous n'avons plus besoin de nous relier à une sagesse extérieure. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoutera pas ce que les gens à l'extérieur ont à dire, mais nous avons une source de sagesse à l'intérieur, qui est capable de répondre à toutes les questions que nous nous posons, qui est capable de nous conseiller, qui est capable de nous prévenir en cas de problème majeur qui est en train d'arriver, d'inconscience. Nous avons une source de sagesse en dedans qui nous permet, à partir de là, d'être en relation avec les sources de sagesse extérieures sans nous y perdre et sans leur conférer une autorité abusive. Donc, ma position, ce qui motive vraiment le fait de vous donner comme ça une telle conférence, de communiquer ces éléments, c'est vraiment une position militante. C'est-à-dire que j'estime qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de tous et toutes autant que nous sommes, d'acquérir cette autonomie spirituelle, c'est-à-dire de devenir un petit peu plus adultes dans nos vies, un peu plus autonomes, un peu plus libres, moins reliés aux autorités, qu'elles soient religieuses, spirituelles, politiques ou autres. Et évidemment, je prête toujours attention à mes rêves quand je prépare une conférence comme ça. Et j'ai fait un rêve curieux cette nuit que j'ai posté dans le groupe Facebook à l'écoute des rêves. J'ai d'ailleurs eu de très belles résonances et je remercie toutes les personnes qui me les ont faites. Un rêve dans lequel je discutais avec une amie qui est une activiste écologiste, très préoccupée par l'effondrement et qui est aussi très intéressée par les rêves et les contes. Et je l'emmenais dans la cuisine parce que j'avais mis du riz à cuire et le riz était cuit. Donc c'était le moment d'arrêter la cuisson. Je me rendais compte que y avait un feu qui brûlait, il n'y avait aucune casserole dessus. Donc c'était une erreur et j'éteignais ce feu. Mais je constatais aussi que mon riz était cuit, puis c'était du beau riz blanc, c'était vraiment du très beau riz. Mais il y avait une masse sombre dans ce riz. Et cette masse sombre, c'est quand j'ai poussé un peu le riz avec la cuillère en bois. J'étais très frappé de voir que c'était un oiseau mort, un oiseau qui avait cuit. Et ça m'a d'autant plus frappé que dans les jours précédents, j'avais répondu à une demande de quelqu'un qui m'avait demandé qu'est-ce que je pensais des oiseaux morts comme symbole, parce qu'elle en voyait régulièrement dans sa vie. Et je lui avais immédiatement répondu, ben, c'est un symbole de la mort spirituelle. C'est-à-dire que les oiseaux symbolisent très généralement ce qui relie la terre et le ciel. et un oiseau qui meurt, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort dans cette liaison entre la terre et le ciel. Et en même temps, je disais à cette personne, mais c'est peut-être une très bonne nouvelle parce que dans les rêves, la mort prépare toujours la renaissance. Et quand j'ai reçu ce rêve ce matin, j'ai cherché à le rattacher à des éléments personnels, je n'y suis pas vraiment arrivé. Et puis j'ai repensé à notre rendez-vous de ce soir. Et je me suis dit, mais au fond, voilà, moi aussi je suis très préoccupé par l'effondrement potentiel de notre civilisation techno-industrielle, très préoccupé par qu'est-ce qu'on va mettre en place après. Et donc, cette personne, cet ami, représente ce qu'on appelle, en termes techniques, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mon anima, mon féminin intérieur, très préoccupé par ces questions-là. Je l'emmène dans la cuisine, qui est un espace de transformation. Je passe sur le fait qu'il y a un feu allumé. Je ne sais pas exactement encore quoi en faire, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça qui m'importe vraiment d'adresser à travers cette présentation ce soir. C'est le fait que nous ne sommes pas par hasard en effondrement ou dans les situations très difficiles que nous traversons collectivement actuellement. Nous le sommes aussi parce que, d'une certaine façon, nous sommes dans une transformation spirituelle et dans une mort spirituelle. Nous avons perdu nos grands symboles, nous avons perdu tout ce qui nous réunit au niveau symbolique. Et j'ose croire que les rêves peuvent vraiment nous permettre de retrouver un socle commun. Donc, en tout cas, ça peut participer de la renaissance, la nouvelle renaissance que j'appelle de mes voeux. Donc c'est ce qui vous place un peu l'intention pour ce soir. Je dirais qu'en résumé, ce rêve me recommandait de cuire la mort spirituelle, ce qui est un travail alchimique pour opérer. Alors on me demande de couper les micros. Je vois quand même beaucoup de micros coupés en face de moi. Je vais voir si par hasard il y a d'autres personnes qui ont les micros. Bon. En effet, si vous pouvez couper vos micros, il semble que ça fasse des fois des interférences pour les autres. Pour ma part, je ne les vois pas. Je dirais enfin, pour poser cette intention, que de mon point de vue, nous sommes à l'école primaire du rêve. Okay, nous les Occidentaux, que nous apprenons tout juste à lire. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va étudier l'alphabet du rêve, comme à l'école primaire. Y a les peuples premiers, les Amérindiens, les Boshimans, les aborigènes australiens, sont bien en avance sur nous par rapport à la compréhension du rêve. Et alors, l'Orient, avec le yoga du rêve des Tibétains, par exemple, c'est le niveau universitaire. C'est à peu près comme ça que je situerai les choses. C'est donc Jung et tout ce qu'il a développé, c'est merveilleux, mais c'est l'école primaire. C'est la première année, c'est le CP. Et d'ailleurs, quand on interroge des Africains en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous pensez de la psychologie, du rêve des Occidentaux ?» Ils rigolent, ils disent « Oui, ben, beaucoup de mots. Hein. » Ils n'ont pas tout à fait tort. Pour ma part, je m'intéresse énormément justement à tout ce qui est au-delà de l'interprétation du rêve. Je développe des méthodes de travail au-delà de l'interprétation du rêve. Vous pouvez trouver sur mon blog des conférences à ce sujet-là. Je travaille même en constellation de rêves, ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Mais je crois que pour accéder de façon vraiment entière à ce qu'il y a au-delà de l'interprétation, ben, faut comprendre et maîtriser dans une certaine mesure l'interprétation. C'est comme qu'on ne peut pas monter dans un escalier si les différentes marches ne sont pas solides. Cependant, l'interprétation, c'est complexe, finalement. C'est pas simple. En fait, si, c'est très simple, mais il y a un certain nombre de pièges. Je vais commencer par essayer d'écarter un certain nombre d'obstacles avant d'en venir au cœur du sujet. Parce que ça vous placera en même temps les éléments méthodologiques. La première chose, c'est que l'interprétation d'un rêve, ce n'est pas une explication. Ce n'est pas une explication en forme de « j'ai rêvé parce que ». Enfin, j'ai rêvé de monstre parce que hier j'ai vu un film de monstre. Ou parce que j'ai rêvé de mort-vivant parce que j'ai vu Walking Dead la semaine dernière. Non. Non. Le rêve utilise le fait que vous ayez vu Walking Dead et se sert de ça pour vous parler de quelque chose. Le rêve n'est jamais quelque chose qui fonctionne par cause et effet. J'ai rêvé parce que. Au contraire, c'est une réponse créative, toujours, à un questionnement, ou, en dernier lieu, à une situation pouvant tout simplement nous poser question, parce qu'on vit une situation, puis on ne sait pas très bien comment on va s'en dépatouiller. C'est toujours une réponse créative de la psyché, c'est-à-dire que ce qu'il y a de merveilleux dans le rêve, c'est qu'elle ne répète jamais le passé, elle propose toujours quelque chose de nouveau, elle propose toujours quelque chose de pas connu. Si bien que le pire qu'on puisse faire avec un rêve, c'est de dire « Oh, je sais ce que c'est, ce n'est que ». Quand on dit « ce n'est que », c'est qu'on écarte le rêve. On ne veut, on croit qu'on peut le mettre dans une petite boîte et puis le mettre de côté. Il faut se souvenir de ce que disait Jung, qui est assez terrible, c'est que ce qu'on fait à un rêve, on le fait à notre propre âme. Donc quand on écarte le rêve en le mettant dans une petite boîte, bah, c'est ce qu'on fait à notre âme, c'est-à-dire à notre sensibilité, à notre intuition la plus profonde. En fait, l'art d'interpréter les rêves, c'est ce qu'on appelle une herméneutique, c'est-à-dire que c'est l'art d'interpréter une parole, un texte. C'est-à-dire que ce n'est pas une exégèse. Vous voyez, l'exégèse va commenter la façon dont le texte a été écrit. Ce n'est pas le problème. L'herméneutique va s'intéresser au sens profond du texte. Et moi, j'aime bien penser que l'interprétation des rêves, c'est un peu comme l'interprétation musicale. Vous entendez un air et vous êtes instrumentiste, vous avez la chance d'être instrumentiste et vous reproduisez cet air. Mais éventuellement dans d'autres tonalités, avec un autre instrument. En fait, on peut dire aussi que l'interprétation d'un rêve, c'est comme une traduction d'un message qui nous serait écrit dans une langue étrangère. Et en même temps, cette langue étrangère, elle ne nous est absolument pas étrangère, puisqu'au contraire, c'est ce que Erich Fromm appelait le langage oublié, le langage des images, le premier langage, le langage qu'un enfant de 2 ans comprend. Quand un enfant de 2 ans regarde les Teletubbies et qu'il y a le soleil qui sourit, l'enfant de 2 ans, il comprend très très bien ce que ça veut dire. Et justement, si les enfants sont aussi sensibles aux images, c'est que ça leur parle directement. Ils ont la chance de ne pas avoir un intellect qui se met au milieu en disant « Oui, alors, il va falloir que j'aille regarder dans le dictionnaire des symboles ce que ça veut bien vouloir dire, etc. » C'est vraiment le langage le plus primaire de la psyché, à tel point que Jung disait que la psyché est faite d'images. C'est notre langage fondamental. Et en réalité, d'ailleurs, notre langage parlé est tissé d'images, de métaphores, de symboles. On reviendra là-dessus. Ce qui amenait Jung à dire que la meilleure expression du rêve était le rêve lui-même. Et que toute interprétation est une reformulation du rêve et en est aussi une dégradation d'une certaine façon. On en perd quelque chose, mais que le sens du rêve nous rentre directement dedans par le rêve. C'est sa meilleure expression possible. On verra que c'est un petit peu différent de Freud qui pensait que le rêve est un déguisement. Et Jung dit non, non, la psyché ne déguise pas, le rêve nomme les choses exactement comme elles sont. Qui dit traduction, comme l'a dit une amie il n'y a pas longtemps, qui dit traduction dit toujours un peu trahison. Je crois que c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Mais ça peut être une trahison respectueuse, en le sachant. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre plusieurs interprétations. Et c'est pour ça qu'il est important de garder à l'esprit qu'il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation à un rêve. Dans les pièges, il y en a un qui est très courant, c'est le piège de la théorie qui enferme le rêve. Parce qu'on a trouvé un système d'explication. On dit le rêve, on en revient à ce n'est que. Et ça tourne en boucle. Le rêve confirme la théorie, qui confirme le rêve, etc. En fait, très généralement, ça oblige à mettre le rêve dans ce qu'on appelle un lit de Procuste, c'est-à-dire un lit qui n'est jamais à la bonne taille, dans lequel il faut soit couper les pieds, soit les étirer, mais ça ne fonctionne jamais. Et en fait, vous repérez facilement les théoriciens du rêve qui ne sont pas capables d'aller avec le rêve vivant, au fait qu'il y a des questions qu'ils ne veulent pas entendre. Il y a des questions, ah non, il ne faut pas les poser. Et puis, ils ont la vérité. Alors que vraiment, tout le travail du rêve nous amène à une certaine humilité. La seule personne qui peut connaître la vérité du rêve, c'est la rêveuse ou le rêveur. Si bien que ça nous amène à une autre façon d'approcher l'interprétation, c'est que l'interprétation, c'est une maïeutique, au même sens que Socrate posait des questions pour amener ses interlocuteurs à la vérité. Il faisait accoucher la vérité. Bien, le travail d'interprétation est une maïeutique au sens l'art de faire accoucher, l'art de faire accoucher la vérité du rêve, donc de poser des questions, d'amener des propositions de façon à ce que la vérité du rêve qui est chez la rêveuse ou le rêveur vienne au monde. Il y a un dernier piège, il y en a d'autres, mais disons un dernier piège que je veux signaler, qui est en lien un petit peu avec ce que je viens de vous dire, c'est que le rêve, on ne peut pas le séparer de nous. C'est le piège de ce qu'on appelle l'objectivation, qui consiste à transformer le rêve en objet d'étude, en objet d'analyse, comme si on pouvait le mettre dans un ordinateur pour l'analyser. Puis là, c'est un ancien informaticien qui vous parle. Je me suis vraiment beaucoup intéressé au problème de savoir si on pouvait créer un programme qui interpréterait les rêves. Et je peux vous dire que non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir une relation objective avec un rêve. On ne peut pas travailler avec un rêve comme s'il était séparé de nous, comme si nous en étions distincts, de la même manière qu'on peut étudier, par exemple, la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène dans un dispositif chimique. Le rêve participe toujours du vécu subjectif du rêveur et aussi du vécu subjectif de la personne qui l'entend. Alors ça ouvre des perspectives théoriques absolument extraordinaires et pratiques qu'on discutera une autre fois. C'est vraiment le fait que justement, quand nous entendons un rêve, ça devient notre rêve. Et qu'on peut donc répondre à ce rêve à partir de notre subjectivité, de notre intuition. Mais ce qui est très très important à garder à l'esprit, c'est qu'on ne peut jamais être complètement objectif par rapport à un rêve. Donc on est obligé de renoncer à l'ambition de la science occidentale, de parvenir à une objectivité totale par rapport à des objets de connaissance extérieure. Nous ne pouvons avoir une connaissance qu'une connaissance intime, une connaissance par la subjectivité du rêve. Donc, bye bye objectivité pure, et bonjour la subjectivité assumée. L'interprète de rêve doit assumer que c'est son interprétation à partir de sa subjectivité. Et ça nous ramène à quelque chose que disait von Franz, qui est assez terrible, au départ, en tout cas quand on l'entend pour la première fois, à savoir que toute interprétation est une projection. Donc on ne prétend pas avoir la vérité du rêve, jamais. On accepte qu'il y aura toujours une dimension de projection. Et moi je préfère dire que le rêve lui-même et l'interprétation du rêve font toujours partie, sont toujours un acte de création. C'est toujours une création. C'est pour ça que je propose personnellement non pas une approche psychologique du rêve, mais une approche poétique au sens de la poiesis, la création. Il se passe un jeu de création de conscience. Et je vous illustrerai ça, enfin je vous l'illustrerai, je vous amènerai des assises à cette réflexion. En fait, ce qui se passe avec un rêve, ce qui est important vraiment à retenir, c'est qu'il y a un mouvement intérieur. Quand un rêve est entendu, il y a quelque chose qui bouge dedans. Et c'est ce qui nous permet de savoir d'ailleurs que le rêve a été entendu. Alors à partir de là, on va commencer à rentrer dans la matière. Ça, c'était vraiment juste l'introduction, le hors-d'œuvre. Et dans interprétation du rêve, on vient de parler de l'interprétation. Maintenant, on va parler du rêve un petit peu. Juste pour dire, mais c'est quoi un rêve finalement ? La proposition avec laquelle je vous invite à partir ce soir, c'est deux idées qui vont ensemble. C'est d'une part que le rêve vient de l'inconscient et d'autre part que c'est une énergie. Alors, le rêve vient de l'inconscient, c'est vraiment l'énoncé fondamental de la psychanalyse, la psychologie des profondeurs, qu'elle soit freudienne ou jungienne. Que le rêve soit une énergie, c'est quelque chose qui nous vient de très loin, c'est-à-dire que les peuples premiers disent ce genre de choses. Jung le dit aussi, et le mot énergie, vous savez, il est un petit peu difficile à manier, on en fait tellement de choses. Donc, ce qu'il faut en retenir, et ce qui sera illustré au cours de la soirée, c'est simplement que le rêve a sa propre dynamique, a son propre mouvement interne. Et ça va bien avec le fait que le rêve vient de l'inconscient, puisque l'inconscient La nature de l'inconscient, telle que Jung l'a compris, c'est précisément d'être une énergie, d'avoir un mouvement permanent. Mais avant ça, avant d'en arriver là, il faut revenir à la définition de base de inconscient. Quand je dis de base, en fait, c'est la seule définition valable, sachant que c'est la définition des pères fondateurs, et qu'il y a 22 définitions à peu près dans la littérature psychologique, mais elles sont toutes dérivées de celle-là. C'est une définition très simple, c'est la définition d'un concept limite. C'est l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient, ce dont nous ne sommes pas conscients. Très précisément, ce dont l'ego n'est pas conscient. C'est-à-dire que ça appelle tout de suite une réserve. L'erreur la plus typique par rapport à l'inconscient, c'est de croire que l'inconscient serait inconscient. Or, la découverte absolument remarquable de Freud et de Jung, c'est de dire, mais il y a de la conscience là-dedans. Mais ça a quelque chose à dire. Mais ça a un point de vue différent du point de vue du moi. Ça se souvient de choses que le moi a oubliées. Donc, ce qui est absolument essentiel de se souvenir par rapport à l'inconscient, vous pouvez oublier à peu près tout le reste, c'est juste cette idée. Il est inconscient pour nous. Mais c'est une conscience, ou c'est même des consciences, plusieurs consciences, des sous-personnalités. D'ailleurs, l'Orient connaît ça depuis longtemps, puisque en Orient, on ne parle pas d'inconscient, on parle de conscience des profondeurs. Et on se représente la conscience des profondeurs comme une grande jarre, au fond de laquelle il y a ce qu'ils appellent les vasanas. Les vasanas, ce sont les racines, les pensées racines qui nous viennent d'autres existences. Et puis dans cette grande jarre se dépose tout ce qui a été vécu et qui régulièrement, dès qu'il se passe quelque chose, hein, c'est un peu comme la boue qui se dépose, l'eau est agitée et l'eau redevient boueuse. Et tout le travail de méditation pour les orientaux consiste à rester immobile suffisamment longtemps pour que l'eau devienne claire et qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Freud et Jung n'ont pas la même compréhension de l'inconscient. Pas tout à fait, dirons-nous. Mais déjà, de toute façon, c'est des oppositions stériles dans lesquelles on s'est très longtemps enfermé. Des batailles d'école. Aujourd'hui, plus ça va, plus ça converge, dans tous les sens. Hein, c'est-à-dire que les Freudiens se mettent à reconnaître une dimension transpersonnelle, tandis que les Jungiens n'ont quand même jamais perdu de vue qu'il y avait un inconscient personnel. Freud est le grand découvreur de l'inconscient dans notre civilisation. En fait, l'inconscient était déjà connu avant Freud, mais c'était qu'une notion théorique, une notion philosophique. Et Freud a amené une portée pratique à cette découverte en comprenant que on pouvait guérir des personnes malades simplement en permettant à toutes les voix qui s'exprimaient en elles de se dire. Et que ça libérait quelque chose. Mais la grande distinction entre Freud et Jung, c'est que pour Freud, l'inconscient dérive du conscient. C'est-à-dire pour Freud, l'inconscient est fait du refoulé. C'est la poubelle du conscient. Ce dont le conscient ne veut pas se souvenir, il le met à la poubelle et ça se retrouve dans l'inconscient. Jung n'est pas contre cette idée-là. Il a bien remarqué qu'il y a une couche comme ça qu'il appelle l'inconscient personnel. L'inconscient personnel, c'est une couche qui pourrait aussi bien être consciente, mais qui a été oubliée. Pour Freud, l'inconscient est essentiellement constitué de désirs, de libido sexuel, mais sexuel au sens large, d'un désir, d'une pulsion à se faire plaisir, à aller vers le plaisir. Il se trouve que très vite, en face de lui, il y en a un autre qui s'est positionné, qui s'appelle Adler, et qui a dit non, non. L'inconscient, lui, il a une volonté de puissance, c'est la construction du moi, et il veut affirmer une puissance. Et Jung écoutait ces deux parler, il disait, mais ils ont tous les deux raison. Ils sont juste en train de parler d'une polarité à l'intérieur de l'inconscient. Et en dépassant cette polarité entre deux pôles, Jung, s'intéressant beaucoup aux mythologies, aux religions et tout ça, a découvert quelque chose d'absolument incroyable, qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est-à-dire que pour Jung, pour Jung, la conscience n'est pas, l'inconscient n'est pas la poubelle de la conscience. Au contraire, la conscience émerge de l'inconscient. L'inconscient est une matrice qui nourrit la conscience et qui la nourrit avec des éléments qui viennent de partout, de toute l'histoire de l'humanité. Des éléments qui sont communs à la famille, c'est l'inconscient collectif familial, à la culture, à l'ethnie, mais à toute l'humanité, et peut-être même, si on en suit les chamans qui semblent être allés plus loin encore que Jung sur ces questions-là, eux ils disent, ah mais il y a une couche humaine, mais il y a une couche animale, il y a une couche végétale, il y a une couche minérale, enfin bon bref, c'est... Et de toute façon, Jung ne se prononce pas, il dit simplement, l'inconscient collectif, c'est incommensurable ce à quoi on touche. On touche tout d'un coup au fait qu'il y a une unité psychique qui relie tous les êtres vivants, tous les êtres humains. C'est ce qui nous permet d'avoir un langage commun. Pas seulement un langage culturel, mais que même si on rencontre un Chinois qui ne parle pas le français, et que moi je ne parle pas du tout le chinois, on va arriver à se comprendre. On peut avoir des structures de linguistique et des structures de pensée très différentes, on a un fond commun. Ce fond nous ramènera à ce qu'on appelle les archétypes, qui sont essentiels pour comprendre les rêves. À partir de là, je passe rapidement sur le fait que on a souvent discuté de savoir s'il y avait un subconscient, puis un supraconscient, qui serait comme un inconscient qui serait plus proche de l'animal, plus proche des instincts, puis un inconscient qui serait plus proche du divin. Bon, pourquoi pas? Il y a une géographie comme ça de l'inconscient. Il y a le bas et il y a le haut. Et puis, il y a la table d'émeraude qui nous dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que finalement, ça forme un tout vivant. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vivant et ça cherche à communiquer. Ça communique avec les rêves, mais ça communique pas qu'avec les rêves. Ça communique avec les synchronicités, ça communique avec ce qui nous arrive, ça communique avec les idées qui nous passent dans la tête, la chanson qu'on a envie de chanter tout d'un coup. Ça communique sans arrêt. Et c'est pourquoi je propose une vision non dualiste de inconscient et conscient. Pour moi, un des torts de la psychologie aujourd'hui, c'est de diviser en objets, de faire de la conscience un objet et de l'inconscient un objet, alors que ce sont des processus, ou plus exactement même que ce sont des moments d'un processus. Je vois une question, alors je répondrai rapidement. La table d'émeraude, c'est un texte très ancien qui date d'avant Jésus-Christ et qui est un texte ésotérique très particulier qui donne la clé du monde, la clé alchimique du monde, paraît-il. Et dont, entre autres, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir le miracle d'une seule chose, d'un seul être. Je ne devrais pas amener des citations aussi complexes parce que ça me détourne de mon chemin et ça vous enfarge dans des détails, comme on dit en bon québécois. Ce que je veux illustrer, c'est que le conscient et l'inconscient non plus ne sont pas séparés. Il n'y a pas de conscience sans inconscient. Ou peut-être qu'il existe une super conscience, une conscience absolue, quelque part, qui n'a pas d'inconscient. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous les êtres humains, il y a toujours un inconscient. Et je peux vous dire que j'ai discuté avec quelqu'un qui est reconnu comme un éveillé, Richard Moss, et il a rigolé quand je lui ai demandé s'il avait un inconscient. Il m'a dit que oui, et qu'il était bien content de dormir et pouvoir se reposer, que ce serait fatigant d'être tout le temps conscient de tout, de tout, de tout, tout le temps. Hein? Mais ce que je veux illustrer, c'est qu'en fait, conscient et inconscient, ben, entre les deux, il y a un processus permanent de création de conscience. No notre conscience a l'illusion d'être une chose qui a une permanence, une solidité. Et en réalité, c'est un flux permanent d'idées, d'émotions, de choses qui viennent de l'intérieur, de mémoires oubliées. Il se passe quelque chose, ça fait écho à une de nos mémoires, elle remonte. On ne le sait même pas, on n'a pas d'enregistrement particulier qui nous vient à l'esprit, mais ça vient affecter notre perception. Et on peut dire que dans l'inconscient, on dénote deux choses importantes, on dénote des mémoires qui nous ramènent toujours au passé, au connu, et en même temps un autre niveau, une autre polarité. C'est qu'il y a toujours une capacité créatrice de nouveau, du neuf. Ça fait partie de ce qu'on retrouvera dans l'inconscient, je vous en parlerai un petit peu plus loin, c'est qu'il y a toujours dans notre inconscient, c'est en ça que Jung avait une vision énergétique de l'inconscient, des polarités. Le haut, le bas, le bien, le mal, le lumineux, l'obscur, le créatif et le passé, le futur et le passé, le créatif et ce qui répète, le connu. L'énergie, vous savez, est toujours en plus et en moins, et il y a toujours des jeux de polarité dans l'inconscient. Ce qui est important de retenir dans ce que j'essaie de vous faire passer, c'est simplement qu'un rêve, c'est un moment de création de conscience. C'est qu'il y a quelque chose qui cherche à devenir conscient, et la première forme que ça prend, c'est une forme de rêve. J'ai une métaphore pour ça, j'appelle ça la fleur de conscience. Un rêve, c'est le moment où la graine qui était enfouie sous le sol et qu'on ne voyait pas perce et qu'il y a une jeune pousse qui commence à apparaître. Et c'est bien que le travail d'interprétation des rêves est plus généralement un travail de jardinier qui consiste à arroser le rêve, à vérifier qu'il pousse, en sachant qu'on n'aide pas une plante à pousser en tirant dessus. Ça ne sert à rien de tirer dessus, donc de l'abstraire, de la rendre abstraite. Il faut que ça reste enraciné dans le corps. Il faut que ça garde ses racines dans notre vie, dans notre subjectivité, dans notre existence. Je fais juste une petite pause boisson. Je surveille l'heure parce que j'ai vraiment pour objectif de pas... Je risque de vous assommer de théorie, hein. Ça doit être très clair. Je vous lance beaucoup, beaucoup d'idées. Le principe étant que vous pourrez y revenir en les réécoutant et que surnagera ce qui est important pour vous. Mais que l'objectif que j'ai, c'est de vous faire sentir aussi la cohérence que toutes ces idées ont entre elles et que ça puisse nourrir votre propre réflexion. Donc, quand on parle de conscient et d'inconscient, il y a un mot qui s'impose immédiatement, c'est la notion de symbole. Et précisément, l'interprétation des rêves se fonde sur l'idée que les rêves sont faits de symboles. Ou plus précisément, que les rêves sont des métaphores, qui sont des histoires symboliques, on pourrait dire. Symbole, le mot lui-même est très très important, très intéressant. Il nous vient du grec « symbolein », qui veut dire « ce qui réunit ». Et son opposé, c'est le diabolein, ce qui divise. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de réaliser qu'en fait, tout ce qui est facteur de division, quelque part, crée de la discorde, mais le symbole a exactement l'objectif inverse de réunir, et entre autres de réunir le conscient et l'inconscient. Un symbole, c'est une image au sens large, c'est-à-dire pas nécessairement visuel, que donc la conscience peut percevoir dans sa forme d'image et qui a un versant inconscient. Et ce versant inconscient, qui est donc caché par l'image, en même temps que l'image le manifeste, il a un potentiel énergétique. Et c'est ce qui fait qu'un symbole va nous fasciner ou va nous effrayer. Que la relation à un symbole n'est jamais une relation rationnelle. Un symbole nous touche. Il y a des symboles qui sont vivants, puis il y a des symboles qui sont morts. Parce que les symboles, ça fait partie, par exemple, de la vie culturelle. Et, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des symboles du Christ en croix. C'était quelque chose qui vraiment mobilisait les foules, réunissait toute la société. Et puis Jung a constaté à un certain moment que le christianisme était en train de se dévitaliser et que les symboles du christianisme n'émouvaient plus personne. On les avait tellement vus et on les avait tellement associés à des entreprises de pouvoir et des choses comme ça, que c'est des symboles qui ne parlaient plus. Et de toute façon, ça fait partie de, on pourrait dire, de l'économie des symboles, c'est-à-dire que les symboles, c'est vivant. Ça a une vie. Ça vit, ça meurt. Les anciens dieux, c'était des symboles, les dieux grecs, les dieux mexicains, et aujourd'hui on les considère comme des symboles, mais sur un plan intellectuel, il y a très peu de gens qui se relient à eux d'une façon vraiment sensible. Et pourtant, nous disent certains chamans, ben justement, penser à ces dieux-là leur fait du bien, ça leur donne une occasion de se réveiller, de se souvenir de ce qu'ils ont marché sur terre, etc. Et qu'ils ont peut-être encore quelque chose à nous communiquer. Et avec la notion de symbole, il y a la notion de métaphore qui est intéressante, puisque les rêves sont une métaphore. C'est un discours symbolique. Et métaphore, ça nous vient du grec métaphoros, qui veut dire qui emmène plus loin. Ça emmène plus loin que là où on est. Quand on fait un rêve, on reçoit quelque chose qui cherche à nous emmener plus loin que la vision qu'on a de la situation ou du problème que l'on considère, de la question que l'on considère. Ça nous prend par la main et ça nous emmène. Et en fait, ça nous pose un problème assez sérieux, c'est qu'on ne peut parler du rêve et de l'inconscient que à travers des symboles et des métaphores, puisqu'on ne peut pas avoir d'appréhension objective de ce que c'est. Comme l'inconscient est hors du conscient, on ne peut jamais l'aborder que de façon indirecte, à travers ce qu'on appelle les rejetons de l'inconscient. Ce sont les rêves, les lapsus, les synchronicités. Ce sont les produits de l'inconscient, et c'est eux qui nous donnent une idée de ce qu'il y a dans l'inconscient. Mais l'inconscient lui-même, personne ne l'a jamais vu, puisqu'il faudrait qu'il devienne conscient. Les rêves, c'est pareil. Les rêves ont toujours une partie cachée dans l'inconscient. Donc, quoi qu'on en dise d'une façon objective, avec les plus grands discours philosophiques que je peux vous faire, perdra quelque chose de ce qu'est le rêve. On ne pourra jamais refermer complètement la question. La seule façon d'en parler, de leur rendre justice, c'est d'en parler à travers des symboles et des métaphores. Comme par exemple, tout à l'heure, je vous ai proposé une métaphore pour le rêve, la métaphore de la fleur de conscience. C'est-à-dire, voilà, le rêve est une fleur qui pousse. Bon. Après, quelqu'un d'autre pourra arriver avec une autre métaphore, un autre symbole tout aussi fort, disant, mais non, un rêve, c'est un oiseau merveilleux qui chaque nuit vient chanter sur ma fenêtre. Et ça dit quelque chose d'autre du rêve. Et ce dont nous devons le plus nous garder, c'est d'une pensée totalisante, c'est-à-dire d'une pensée qui prétendrait tout expliquer. Avec le travail du rêve, avec la prise de conscience, la notion de l'inconscient, on garde toujours ouvert, quelque part, le fait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut venir élargir notre regard. Et c'est ça le processus de création de conscience permanent. C'est que c'est un flux permanent dans lequel notre conscience de nous-mêmes, de notre vie, des questions qui nous importent, s'élargit avec une contribution d'une sagesse à l'intérieur qui est une sagesse qui est au-delà de nous. Alors à partir de là, et dans le, je dirais dans la petite vingtaine de minutes qui reste avant qu'on se prenne une première pause, essayez de vous rentrer un peu plus dans le l'anatomie de l'inconscient, ce qu'on en connaît. Et encore une fois, je vais essayer de le faire d'une façon pratique, utile au travail avec les rêves, et non pas d'une façon philosophique qui pourrait ouvrir à des grands débats. S'il y a des grandes questions philosophiques, on pourra éventuellement en parler après ou vous me contacterez. Mais mon objectif est vraiment de vous amener des éléments, des concepts pratiques. Il y a cette notion qui est assez essentielle de complexe. Vous avez tous certainement entendu parler des complexes, le complexe d'infériorité, le complexe d'Œdipe, toutes sortes de complexes. Et c'est important parce qu'on rencontre beaucoup de complexes dans les rêves. Un complexe, une façon simple de le proposer, c'est que, bon, d'abord, un complexe, pourquoi on l'appelle complexe? C'est parce que ça amalgame tout un ensemble de choses, de pensées, d'émotions, de sensations, de mémoires. Tout ça est, comme on dit au Québec, pogné comme dans un pain, c'est-à-dire que c'est mêlé ensemble. Et on n'arrive pas vraiment à les distinguer les uns des autres. Il y a une mémoire qui est liée à une pensée, qui est liée à des émotions, puis on tire un fil et puis ça amène tous les autres. Et en même temps, ça reste toujours un sac de nœuds, plus ou moins. Une façon très directe de parler des complexes, c'est que c'est très généralement, on peut dire que c'est une sous-personnalité autonome. Alors ça amène un sérieux problème, c'est d'un coup qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul chez nous. ou plutôt à l'intérieur de nous. Jusque-là, tout allait bien. Il y avait moi, chez moi, en moi, et moi était en responsabilité de l'ensemble de la chose. Bon, il y avait bien cette notion vague d'un inconscient, mais c'était un peu fumeux tout ça. Hein. Et puis tout d'un coup, ben non, voilà que cet inconscient, il est peuplé de personnalités qui ne sont pas complètement finies d'élaborer, qui ne sont pas aussi complètes que le moi. Et d'ailleurs, ces personnalités, elles sont généralement engagées dans une lutte pour prendre le contrôle du micro, c'est-à-dire qu'elles aiment bien parler. Alors ça, on s'en rend compte, par exemple, par le fait qu'on est des personnes différentes, par exemple, selon les situations. Voilà, on va au travail et on est une certaine personne, et puis on va à l'épicerie, on est une autre personne dans notre façon de réagir, et puis finalement, on retrouve notre amoureux, et on est encore une autre personne. Et c'est une des grandes découvertes, non seulement de la psychologie, mais des voies ésotériques depuis longtemps. Gurdjieff disait ça. Il disait, la première prise de conscience, c'est de réaliser combien vous êtes multiples. Combien, en fait, il y a de multiples personnalités à l'intérieur. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les personnalités multiples. Hein, où vraiment, il y a des personnalités, on a pu recenser dans un cas qui s'appelle le cas de Sibylle, par exemple, qui a un livre a été consacré, 18 personnalités différentes, et ce qui était très intéressant, c'est que ces personnalités avaient non seulement une voix différente, une façon de parler différente, une posture différente, mais même une plastique différente, on pourrait dire. Certaines avaient une tonicité, d'autres étaient... Donc ça joue sur l'énergie du corps, ça joue sur tous les aspects. Et ce sont des personnalités, et on les retrouve dans nos rêves. Elles prennent souvent le visage de nos amis, de nos proches, de personnes inconnues. On repère aussi ces complexes dans la vie au fait qu'ils déclenchent des émotions qui sont hors de proportion avec le déclencheur. On nous fait une remarque et tout d'un coup, comme on dit, on monte en tour. Alors que c'était une petite remarque de rien, on disait juste de faire attention au fait qu'il y avait une tache de jaune d'œuf sur notre chemise. Ah, mais c'est venu toucher un complexe. Et là, ça rentre en éruption. La façon dont on travaillait, Jung et Freud, et Jung en particulier, avait élaboré un test pour travailler avec les complexes au début du XXe siècle, c'était avec ce qu'on appelait le test d'association. On vous proposait une série de mots qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et on vous demandait d'associer immédiatement le mot qui vous venait à l'esprit. Donc on vous disait vache et vous répondiez Marguerite. On vous disait couteau et vous disiez boucher, etc. Et en fait, pendant que la personne croyait que ce qui était important, c'était ce qu'elle allait dire, mais ce n'était pas ça qui était mesuré. Ce que mesuraient les scientifiques, c'est le temps de réponse. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait un complexe à l'œuvre, il y avait un blanc. C'est comme tout d'un coup, la conscience était suspendue. C'est comme tout d'un coup, on dit vache, puis... Il y a un blanc et boucher. Ah, ben là, il y a quelque chose. Il y a un nœud émotionnel. Et on observe la même chose quand on travaille avec les rêves. On va poser des questions et tout d'un coup, on va sentir qu'il y a quelqu'un qui... je sais pas. Et le blanc nous signale qu'il y a une interruption de conscience, qu'il y a un complexe qui vient de dire « Hey, moi, je veux parler !» Et là, l'ego est un peu bousculé. Il dit « Non, hey, oh, calme !» Et ils sont en train de régler leur compte. Et pendant ce temps-là, ben, facile. Ça nous amène à un constat qui est assez douloureux. C'est que pour Jung, l'ego est un complexe parmi les autres. Et que finalement, d'ailleurs, dans certains cas pathologiques, comme je parlais des multiples personnalités, ben on va avoir 18 égos différents, c'est-à-dire 18 complexes qui vont prendre la position de l'ego. L'ego étant dans ce cas-là simplement le centre du conscient. Donc on peut se représenter ça comme si l'ego, finalement, c'était le micro du chairman. Et puis il y a une assemblée, puis il y a une bataille furieuse pour savoir qui c'est qui va parler, pour prendre le micro. Ça, c'est la psyché un peu névrotique, typique de l'occidental normal. Le travail des rêves consistant à donner la parole à tout le monde. Mais en commençant à y introduire un petit peu d'ordre. Chacun son tour et du respect, s'il vous plaît, les uns pour les autres. Avec la notion de complexe, il y en a une autre qui est très importante, c'est la notion d'archétype. Ah, ça, Jung souvent est associé à la notion d'archétype. C'est très drôle parce qu'on n'enseigne pas Jung à l'université, mais on a des journalistes à la radio qui nous parlent des archétypes. Évidemment, pas nécessairement une compréhension tout à fait claire de ce qu'est un archétype. Ils confondent volontiers les archétypes et les stéréotypes, c'est-à-dire les clichés. Les archétypes, c'est les images primordiales dans la psyché. C'est les grandes images fondatrices de la psyché. C'est les grandes images structurantes. C'est les personnages des grandes histoires, des mythes, des contes millénaires. On peut dire que les archétypes, là où les complexes, ce sont les sous-personnalités, ben, les archétypes, ce sont les dieux et les déesses. Qui vivent dans l'arrière-plan de la psyché. Et Jung en a proposé une vision extrêmement intéressante en disant qu'en fait, c'est la dimension spirituelle de l'instinct. Par exemple, les animaux ont tous l'instinct de chercher un abri, de construire un nid, de chercher un terrier. Et nous, les êtres humains, on est pareil. On se cherche un nid, on se fabrique des nids, on achète des nids. Mais nous, on appelle ça des maisons et puis on élabore beaucoup de choses autour des maisons. Et puis la maison, c'est un symbole important dans les rêves. Ben, il y a l'instinct de nidification. Ça, c'est l'instinct, c'est la pulsion comportementale. Et il y a la représentation que seul l'être humain, semble-t-il, a de ce qu'est une maison. Et ça a des incidences extrêmement importantes, comme par exemple quand la biologie totale explique que les cancers du sein sont éventuellement liés à ce qu'on appelle un conflit de nid, c'est-à-dire à quelque chose qui ne va pas par rapport à la façon dont la relation au foyer est vécue et que ça se cristallise dans le corps. Donc ce n'est pas pour dire que ce sont des idées abstraites. Ce sont des idées structurantes. Un archétype universel dont nous avons tous et toutes l'expérience, ben, c'est l'archétype de la mère, par exemple. Même un enfant qui n'a jamais connu sa mère biologique, de toute façon, le premier réflexe, et Conrad Lorenz qui a montré ça avec des petits canards, mais c'est d'autant plus vrai pour l'être humain, les premiers êtres à qui il va se lier, il va se lier à cet être-là comme à une mère, c'est-à-dire qu'il va projeter l'archétype maternel sur cette personne. Il va lui demander d'en prendre soin et de le nourrir. On pourrait dire que les archétypes, c'est les structures de base de la représentation qu'on se fait du monde, des choses. C'est une façon de dire que ce sont les lunettes qu'on porte pour regarder les choses. Et les lunettes qu'on porte teintent notre perception. Quand par exemple on a les lunettes d'Aphrodite, parce qu'on est amoureux, on ne voit pas du tout la vie de la même façon que si on porte les lunettes d'Arès, le dieu de la guerre. Arès, là, si on a les lunettes d'Arès, si on est pris par l'archétype d'Arès, ben on est en guerre. Et alors là, il n'y a que des ennemis. Il n'y a que des ennemis ou des alliés, on est dans un combat, et ce sera la victoire ou la mort, la défaite. Ça, c'est la perception d'Arès. Alors qu'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Et les amoureux le savent, on sait très bien d'ailleurs, on sait très bien repérer des amoureux. On voit bien qu'ils sont un peu dans un autre monde. Ils portent des lunettes roses, ils se mettent à tout voir au travers du prisme de l'amour. On peut voir aussi des personnes qui, par exemple, tout simplement, sont prises par l'archétype maternel. Pas seulement dans la relation avec leurs enfants, mais avec leurs amis, avec leurs collègues. Ils vont toujours avoir une attitude nourricière, protectrice. Ou à l'inverse, vont le chercher, cet archétype maternel chez les autres. Ils vont se comporter comme un enfant, en recherche d'une mère. Et les archétypes sont complexes. Il y a la bonne mère et il y a la mauvaise mère. Il y a la mère nourricière et puis il y a la mère terrible qui abandonne. Ce sont autant de facettes de l'archétype. Je vous invite à faire très attention aux grilles totalisantes des archétypes, qui prétendent dire voilà, voilà les 12 archétypes universels pour l'humanité. Ça, par exemple, le marketing se sert de ça. Pearson a établi une théorie des 12 archétypes. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, les archétypes, je l'ai entendu récemment dans un rêve qu'on m'a partagé, les archétypes réclament d'être considérés comme des réalités vivantes, des expériences, et non pas d'être mis dans des boîtes conceptuelles. Aphrodite, Arès, Zeus, ou alors même Hermès, Hermès que j'invoque quelque part en vous donnant cette conférence, parce que c'est pas un hasard si je la donne un mercredi, c'est le jour d'Hermès. C'est le jour justement où Hermès favorise ce type de communication. Mais ce sont des expériences, des réalités vivantes qui peuvent nous inspirer. Que quand on est familier des contes, de fées, des mythes, des rêves, on sait très bien qu'on ne peut pas les, encore une fois, les objectiver, c'est-à-dire les tuer, les disséquer, les rendre, en faire des réalités mortes. Si on en fait une réalité morte, c'est fini. Ce n'est plus intéressant, c'est juste un cadavre. C'est un peu ça le danger quand on objective les rêves, c'est qu'on dissèque un cadavre. Mais c'est la même chose qu'on fait avec les archétypes quand on en fait juste des concepts. Et qu'on dit, oh finalement, Aphrodite, oh c'est une représentation grecque de la pulsion amoureuse. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Parce qu'Aphrodite, elle va avec le désir, la séduction, la jalousie, l'attente, la solitude, avec tous les aspects de la vie de l'amour. Et finalement, si on demande à quelqu'un, c'est quoi l'amour? Ben, on a la réponse de saint Augustin, qui est sans doute la meilleure, qui dit, oh, quand vous ne me posez pas la question, je le sais, mais quand vous me posez la question, je ne le sais plus. Et c'est là qu'est l'archétype. C'est là où on ne sait pas. C'est parce que c'est vivant. Ça participe de notre vie. Ça participe de notre vie psychique. Ça participe de l'inconscient collectif, justement. Les complexes sont personnels. On a toutes plus ou moins les mêmes complexes. Disons, par exemple, beaucoup de gens vont avoir un complexe d'infériorité, un complexe d'imposteur, par exemple. Le fameux complexe d'Œdipe, la relation aux parents de l'autre sexe et compagnie. Mais c'est personnel. Les archétypes sont collectifs. Et la relation entre les deux est très intéressante, c'est que quand on creuse un complexe, on arrive généralement à un noyau. Et ce noyau, c'est un archétype. C'est-à-dire qu'au cœur de chaque complexe, il y a une dimension archétypale. Le complexe d'infériorité, par exemple, ben dedans, il y a quelque chose qui s'appelle l'humus, l'humilité, la terre. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette lutte avec l'envie de se faire plus grand et puis la peur d'être rabaissé. Il y a cette relation à en bas. Jung disait en rigolant que le problème, c'était jamais les complexes d'infériorité, c'était que les gens refusaient d'être inférieurs. C'est quoi le problème d'être plus bas que les autres? Il y a des choses dans lesquelles on est meilleur que les autres, il y a des choses dans lesquelles on est moins bon. Mais quand ça devient un problème, c'est qu'il y a un conflit, et qu'il y a un conflit avec l'humus, avec l'archétype de la terre, avec l'archétype qui nous ramène en bas, qui nous empêche de nous prendre pour des dieux qui marchent sur terre. Les dieux, ce sont les archétypes. Donc, pour terminer tout ça, prendre bientôt une pause, je terminerai avec le fait que les anciennes cultures, par exemple la culture grecque, la culture égyptienne, mais les orishas, les aborigènes d'Australie, tous ces gens-là avaient non pas un système d'archétypes, mais vous savez, ils avaient des dieux, et ces dieux étaient vivants, et ces dieux leur parlaient. C'est leur immense supériorité sur nous. Parce qu'ils étaient en lien à travers ça, à l'univers tout entier. Ils avaient une place dans le cosmos. Ils avaient un rôle à y jouer. Comme l'a dit à un moment un chef Pueblo à Jung, il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer si on nous empêche de faire nos rituels, nous? Parce que nous, chaque matin, avec nos rituels, on aide le Père Soleil à se lever. Et si on nous empêche de faire nos rituels, le Soleil va plus se lever. Et Jung, à ce moment-là, a compris qu'ils étaient bien plus riches que nous intérieurement. Que notre misère, à nous, c'est que nous n'avions plus aucune place dans l'univers. Qu'on n'a plus de fonction dans l'univers, nous. On n'aide plus le Père Soleil à se lever, on n'aide plus notre mère la Lune, on ne prend plus soin de notre mère la Terre. Ce sont autant d'archétypes. Les Grecs, les Égyptiens, tous les autres avaient des systèmes symboliques vivants, ce qui est très très différent, encore une fois, de toutes les grilles qui prétendent vous expliquer les archétypes et qui vous disent, ah voilà les 12 archétypes d'individus modernes, alors bom bom bom, c'est ça. Et il y a toujours quelque chose qui en sort, il y a toujours quelqu'un qui ne prend pas sa place dans cette grille. Et la dernière idée, c'est que les archétypes, disait Jung, c'est comme une rivière qui a été creusée par le cours du temps, de l'expérience de l'humanité. Par exemple, depuis toujours, depuis qu'il y a des êtres humains, et même depuis avant qu'il y a des êtres humains, puisque depuis qu'il y a des mammifères, il y a l'expérience instinctuelle d'être mère qui existe, de mettre au monde et de prendre soin, comme une jument prend soin de son poulain. Quand les êtres humains ont commencé à élaborer le cortex qui nous est propre, et notre capacité de représentation commençait à se développer une représentation de la mère. Être mère au XXIe siècle, ce n'est pas très différent d'être mère il y a 10 000 ans, fondamentalement. C'est toujours le même archétype. Et en même temps, c'est très différent. Parce que la mère il y a 10 000 ans n'était pas prise avec un problème de jeu vidéo dont il fallait arriver à sortir le gamin pour qu'il aille jouer dehors. Il y a des problèmes spécifiques qui se posent à chaque époque, à chaque mère. Et ce que Jung soulignait, c'est que l'expérience de chacune vient enrichir le collectif. Et que donc, à travers nos rêves, nous bénéficions de l'expérience de toutes les personnes qui ont vécu avec l'archétype que nous rencontrons. Je m'arrête là pour 5 minutes. On prend la pause. Et dans 5 minutes, il y a un gong qui va sonner et je recommencerai. Donc voilà, c'est reparti. Je vous ai parlé donc des complexes, des archétypes, de l'inconscient. Tout ça, ce sont des notions de base qui vous faciliteront aussi, si vous avez une bonne compréhension, la lecture, tout simplement, de Marie-Louise von Franz, qui était une collaboratrice de Jung, qui a beaucoup écrit sur les rêves, sur les contes. Merci Christine, j'apprécie. J'ai besoin toujours d'être rassuré parce que la théorie, bon, bref. Donc c'est ça. Moi, l'objectif à travers tout ça, c'est de vous donner les bases conceptuelles qui permettent d'avoir un langage commun, de parler des mêmes choses. Ça communique une vision générale et ça vous ouvrira aussi des portes pour lire plus directement Jung, encore que Jung soit pas toujours facile à lire, je dois reconnaître, mais surtout Marie-Louise von Franz, qui était sa collaboratrice. Et entre parenthèses, une des meilleures façons de se former au travail avec les symboles, avec les archétypes, c'est de lire les 8 ouvrages que Madame von Franz a consacrés aux contes de fées, la femme dans les contes de fées, l'ombre dans les contes de fées, qui sont absolument remarquables. Marilyn von Franz, on me demande de l'épeler, donc c'est Marilyn, Von, Franz, Franz. Voilà. De toute façon, je vous proposerai une petite bibliographie à la fin où son nom apparaîtra. J'aurai quelques livres à vous suggérer. Et donc voilà, en fait, on vient d'éclaircir le chemin en parlant de complexes, d'inconscients et d'archétypes et tout ça, de symboles. Maintenant, on va arriver au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est une découverte de Jung extraordinaire. D'accord? C'est qu'au cœur de l'inconscient, il y a un centre de conscience qui est la source des rêves et qu'il a appelé le soi. Alors, c'est là qu'on rentre dans une distinction qui est fine. Entre le moi, moi-je, qui je suis, Jean Galliardi, Tagadi, Tagada, et le soi dont le moi ne serait qu'une émanation. C'est-à-dire que Jung, avec cette découverte du soi, qui est venue de ses rêves, qui est venue de son travail sur les rêves, est arrivé à l'idée qu'il y avait une dimension de notre psyché qui est hors du temps, et qui est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, et en particulier au-delà des opposés. Je vous disais que l'inconscient était fait d'opposés. le blanc, le noir, le bien, le mal. Le soi, qui est encore un archétype, mais c'est l'archétype ordonnateur de la psyché, ordonnateur de l'inconscient collectif. C'est lui qui met de l'ordre. C'en est comme le centre du collectif. On pourrait dire que le moi, c'est le centre de la conscience relative. Le soi, en fait, c'est même plus que le centre de l'inconscient collectif, c'est le centre de la totalité qui réunit le conscient et l'inconscient. Parce que le conscient et l'inconscient sont encore une paire de polarités dans la psyché, dans l'énergie de la psyché. Et le soi est quelque chose qu'on peut qualifier de transcendant, mais non pas d'une façon, comment dire, philosophique, c'est vraiment, enfin, ésotérique. Transcendant, on peut avoir, ça peut nous rappeler des souvenirs, de discours religieux. C'est transcendant au sens où ça dépasse tous les opposés, ça les inclut. L'idée du soi, la notion du soi elle-même, Jung l'a découverte en étudiant ses rêves, en se rendant compte qu'à un certain moment, commençait à apparaître dans ses rêves sous forme de mandala. Il y avait des mandalas, il y avait aussi des personnages extraordinaires qui apparaissaient dans ses rêves, des vieux sages. Entre autres, il a eu un guide comme ça qui venait le visiter dans ses imaginations actives, qui s'appelait Philémon et qui était un homme ailé. Et il s'est rendu compte que Philémon était porteur d'une sagesse qui était bien au-delà de même du personnage historique auquel ça référait. Et les mandalas, que font en particulier depuis très longtemps les bouddhistes tibétains, sont une façon de représenter le soi, qui représente justement les différents opposés dans une harmonie. Et en fait, pour eux, c'est aussi une représentation du cosmos. Et Jung s'est rendu compte qu'à partir d'un certain moment, d'un certain temps de travail sur soi, commençaient à apparaître des figures comme ça qui signalent qu'il y a un ordre qui est en train de se mettre dans la psyché et que cet ordre, il s'organise autour du soi, autour d'un centre que Jung a aussi qualifié comme étant une image de Dieu. C'est-à-dire, il dit, au fond, dans la psyché de tous les êtres humains, il y a une image de quelque chose de transcendant, de quelque chose qui est au-delà du monde, de la dualité dans laquelle nous sommes, qui en est à la fois la source, le grand ordonnateur et la finalité. Il a trouvé la référence principale qui lui a permis de le nommer le soi vient de l'Inde. C'est-à-dire que le soi, pour Jung, c'est l'équivalent de ce que les hindous appellent l'atman. Ce que nous appelons le moi, pour les hindous, c'est le jiva, c'est l'être éphémère qui naît de l'atman, qui vit une vie et qui ramène son expérience à l'atman, qui lui est dans l'éternité et va décider de créer de nouvelles vies. Ce serait un peu le rapport entre le moi et le soi, tel que les rêves. Jung n'a pas inventé ce genre de choses. On a des rêves à propos de l'inconscient, on a des rêves à propos de la relation entre le moi et l'inconscient, et on a des rêves à propos du soi et de la relation au soi. En fait, il y a une merveilleuse idée derrière ça. C'est l'idée que, c'est l'idée empirique, je dirais, parce que ce n'est pas une idée théorique, que les complexes dont on parlait tout à l'heure sont comme des étincelles de conscience dans l'inconscient. Je vous disais que l'inconscient, il y a de la conscience dedans. Et s'il y a des sous-personnalités, ces sous-personnalités, elles représentent chacune une forme de conscience. Elles ont leur histoire propre, leurs désirs, leurs projets, leur façon de voir la vie, souvent très différente des nôtres. Et c'est une forme de conscience au sens où c'est une subjectivité. Alors, c'est là qu'on touche à quelque chose. Il y avait une vision ancienne qui plaira beaucoup à notre ami astronome parmi nous, Herbert, des étoiles à l'époque, au Moyen Âge, à l'époque où on s'intéressait au système ptolémaïque. On pensait qu'en fait, le ciel, c'était comme une espèce de grande toile obscure et qu'il y avait des trous dans cette toile et que derrière cette toile, il y avait une grande lumière. Et que les étoiles, bah, c'était ces trous qui laissaient passer la lumière du grand soleil qu'il y avait derrière la toile du ciel. C'est une métaphore, c'est une projection absolument remarquable de l'inconscient, qu'on peut considérer comme cette grande noirceur qui nous cache quelque chose qui est la conscience du soi. Et cette conscience, elle parvient à nous à travers les piquetis, les scintillements de conscience qu'il y a dans l'inconscient et qui se manifestent dans les complexes et dans les archétypes. Les archétypes étant finalement plusieurs facettes du soi, différents visages. C'est comme si on en revient encore à quelque chose que dit l'Orient. Vous savez, en Orient, il y a beaucoup de dieux. D'ailleurs, les Grecs avaient exactement la même vision, il y avait beaucoup de dieux. Mais en fait, ils n'étaient pas naïfs. Pour eux, il y avait un dieu inconnu, mystérieux derrière ce dieu. Et ce dieu était sans forme. Et s'il apparaissait sous la forme de des dieux, par exemple les dieux hindous, Indra, Kali, Rudra et tous les autres, c'est parce qu'ils se personnifiaient pour se rendre accessibles, pour rentrer en relation. Et en fait, depuis toujours, les alchimistes et les différentes voies spirituelles expliquent que le travail essentiel, le travail intérieur, consiste à refaire la récollection des lumières perdues. C'est-à-dire à aller chercher la lumière qu'il y a dans chacun des complexes et à commencer à les faire rentrer en relation les uns avec les autres, jusqu'à ce qu'en fait, enfin, ils forment un ensemble harmonieux. Parce qu'au départ, quand on s'y intéresse, généralement, on rencontre le chaos. On rencontre des conflits. Les complexes ne sont pas d'accord entre eux. Et il peut même arriver que ce soit les archétypes qui se battent à l'intérieur de nous et qu'on soit le champ de bataille entre deux archétypes. Ça peut être l'archétype d'Héphaïstos, le technicien, et de Hermès, le poète. Et on se trouve avec un gros problème professionnel. Parce que éventuellement on gagne sa vie avec Héphaïstos qui programme l'informatique, et puis il y a la poésie qui appelle par l'autre côté. C'est des chocs d'archétypes. Dans cette compréhension, on commence à mieux comprendre le rôle de la conscience, qui est simplement de prendre conscience de l'existence des différents complexes, des différents archétypes, et de les mettre en relation les uns avec les autres, et ce faisant, de permettre aux petites lumières, aux petites étincelles de s'amalgamer les unes avec les autres, pour qu'enfin apparaisse à un moment le soleil du soi. Et Jung avait cette très belle image et disait que la relation du moi au soi, qui est la relation qui se développe dans la vie humaine, de façon complètement spontanée, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, c'est une relation qui est d'abord fusionnelle, d'abord le moi se prend pour le soi. Et donc quand on est enfant, on est le centre du monde, et nos parents sont des dieux qui prennent soin de nous. Et puis en grandissant, on rentre dans la relativité. La relativité qui fait qu'on se rend compte qu'on est un être humain parmi d'autres, qu'on va devoir obéir aux lois, qu'on n'est pas tout puissant, tout ce genre de choses. Mais dès lors, on devient moi. Mais si on refait le voyage vers l'intérieur, à travers les rêves, à travers tout le travail intérieur, alors on découvre que on contacte à l'intérieur quelque chose qui est le soi, non pas mon soi, ce serait presque l'inverse. C'est un peu comme quand on dit mon âme, c'est inapproprié. On devrait plutôt dire l'âme à laquelle j'appartiens. Ben, c'est ça la relation entre le moi et le soi. Et donc toute la vie humaine consiste à séparer le moi et le soi et à établir une vie, une relation juste entre les deux. Et cette relation, Jung l'illustrait comme étant la relation d'une planète, le moi, qui tourne autour du Soleil. Et donc cette planète, elle a son domaine propre. Elle a voilà, elle a son espace propre et en même temps, elle n'existe pas sans cette relation au centre, qui est le centre du soi. Ce qui nous amène à une dernière grande idée théorique, cette dernière grande idée. Après, on va rentrer un peu plus dans le vif de vraiment les rêves, ce qu'il y a dans les rêves. Mais c'est que pour Jung, le sujet fondamental des rêves, et au-delà des rêves, le sujet fondamental de nos vies, de notre recherche, notre plus grande pulsion, c'est ce qu'il appelait l'individuation. Et l'individuation, c'est devenir celui ou celle que nous sommes, pleinement, totalement. Pour Jung, la recherche n'était pas la recherche d'une perfection, parce que l'imperfection nie l'imperfection. Non, c'était la recherche d'une plénitude, d'une totalité. L'individuation, c'est devenir pleinement et totalement qui nous sommes, l'unique que nous sommes et tout ce que nous sommes. Si, par exemple, j'avais enfant un talent pour la poésie, puis que je l'ai complètement oublié, il continue à vivre en moi. Il va se représenter dans mes rêves. Il va apparaître sous forme éventuellement, par exemple, d'un gamin des rues abandonné. Je vais en prendre soin avec l'aide de mes rêves. Je vais commencer à en prendre soin. Cet enfant va commencer à être habillé un peu mieux, lavé. On va s'apercevoir qu'il chante d'une façon extraordinaire, qu'il a des mots poétiques merveilleux. Tout d'un coup, il va avoir une dimension magique qui va apparaître. Là, tout d'un coup, derrière le complexe, il y a l'archétype. On va retrouver notre cher Hermès. Éventuellement, un jour, on va voir cet enfant avec des ailes aux pieds et un sourire, et il va faire des tours, il va créer des situations abracadabrantes, il va raconter des mensonges. Parce que c'était ça, Hermès. Hermès, c'est le dieu des poètes, le dieu des menteurs, le dieu des voleurs. Mais c'était un dieu aussi qui communiquait à travers les histoires. C'est le dieu des conteurs aussi, en passant. Et tout d'un coup, donc derrière le complexe, on va trouver le dieu. Et puis tout d'un coup, on va établir une relation avec le dieu. On va commencer à écrire de la poésie. Et là, les gens vont nous dire, oh, c'est divin ce que tu écris. Et tu vas dire, merci, mais c'est pas moi qui écris. Si c'est divin, c'est que ça vient d'Hermès. Moi, je suis juste le scribe. C'est un des dangers, d'ailleurs, quand on comprend pas la relation entre le moi et le soi, la relation avec les archétypes, c'est qu'on prend personnel les choses. On a un type qui monte sur scène, puis il est donc merveilleux. C'est un chanteur rock, là, puis vraiment, il déchaîne les foules, puis il les soulève à la façon de Dionysos. Et puis tous les applaudissements, il les prend pour lui. Et en fait, il se passe dans ce cas-là quelque chose, c'est qu'il s'identifie à l'archétype. Et ça a des conséquences dramatiques. D'ailleurs, assez souvent, ce chanteur rock, eh ben, il a besoin de fumer des trucs, ou de sniffer de la coke, ou il vit des désordres absolument invraisemblables dans sa vie privée, parce que, en réalité, il se prend pour un dieu qu'il n'est pas. S'il avait l'humilité de dire, moi, je suis juste un pantin entre les mains de Dionysos, et c'est Dionysos que vous révérez, Dionysos qui vous fait danser. Il aurait une relation beaucoup plus saine et à son public, et à sa musique, et à sa propre vie. C'est ce rapport aux archétypes qui nous perd souvent, dans lequel le moi se gonfle un peu comme la grenouille qui se prenait pour un bœuf. Et on sait que quand les grenouilles se prennent pour des bœufs, ben, il arrive tôt ou tard qu'il y a une aiguille et puis qu'elles explosent en vol. L'individuation ramène. Oui, quelqu'un qui dit que c'est la même chose avec les chamans et les guérisseurs, c'est exactement ça. C'est la relation juste hein, aux esprits, aux pouvoirs avec lesquels on travaille. Il nous ramène avec d'abord moi, dans sa relation, le moi dans sa relation à l'humus, dans sa petitesse. Et c'est parce qu'on est petit et qu'on reconnaît notre petitesse qu'on peut envisager ce qui est plus grand. Et qu'on peut être dans une relation saine avec ce qui est plus grand. Qui ne nous demande pas de nous aplatir, d'ailleurs. Qui nous demande de vivre notre vie. Et toute cette relation qui s'établit, c'est la recherche de l'individuation. Et c'est celle qu'on retrouve dans les mythes du héros, dans tous les contes. C'est la quête éternelle des héros, des héroïnes. C'est la quête de la réalisation. Et ça se symbolise bien volontiers dans les rêves par le mariage sacré. Le mariage des opposés, le féminin et le masculin qui sont unis. En fait, on sait que le soi est à l'œuvre dans les rêves quand on commence à voir l'union des opposés. À chaque fois qu'il y a du masculin et du féminin qui s'unissent, du blanc et du noir qui s'unissent, à chaque fois que le Symbolaine joue son rôle de réunification, on sait que le soi est à l'œuvre. Et alors c'est là qu'il y a quand même une trique qui est assez amusante. C'est que donc le soi apparaît, éventuellement se constelle dans les rêves à travers le mariage sacré. Mais assez généralement, nous sommes les invités au mariage, nous. Et c'est pas nous qui nous marions. On est tout d'un coup au mariage d'un roi et d'une reine, et on s'aperçoit qu'on a la chance absolument incroyable d'être le témoin du mariage de deux grands êtres. Et ça, c'est la relation juste. C'est pas l'ego qui se marie avec le soi. C'est à l'intérieur du soi l'union du masculin et du féminin grâce à la conscience de l'ego. Mais il y a tellement de variations autour de tout ça. En tout cas, l'individuation, ce qu'il faut retenir, c'est que l'individuation, d'après Jung, est la pulsion la plus fondamentale de l'être humain. Elle est plus forte que la sexualité, elle est plus forte que la faim. Un être humain, pour se réaliser, prendra des risques plus fondamentaux que ce qu'est, que tout ce qui peut mettre en jeu sa sécurité et compagnie. Parce que c'est son essence qu'il cherche à réaliser. On en revient au sens fondamental de son existence. L'individuation se représente souvent dans les rêves, dans des arbres. Comme si l'être humain, du point de vue de l'inconscient, était un arbre qui a besoin d'avoir des racines profondément plantées en terre, et qui, une fois qu'il a des racines profondément plantées en terre, peut s'élever et étendre ses branches vers la lumière. Et l'individuation, eh bien, la salle intéressante, c'est qu'il y a des étapes dans l'individuation, il y a des archétypes spécifiques à l'individuation qu'on retrouve très souvent dans les rêves. Et là, je vais aller un petit peu vite, c'est-à-dire que c'est chacun de ces archétypes réclamerait une conférence au moins, et en fait, moi, je pense au moins un week-end et beaucoup, beaucoup de lectures et de recherches autour. Mais ça va vous donner une idée de choses qu'on retrouve très, très généralement dans les rêves. Le premier archétype qui est lié à l'individuation, c'est l'archétype de la persona. La persona, c'est notre apparence sociale, c'est comment on se présente au monde, et assez généralement, c'est notre masque. Et quand on est inconscient de notre vie intérieure, assez généralement, on s'identifie à notre masque. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est la personne que les autres voient. Du coup, d'ailleurs, c'est un gros problème, parce que du coup, ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils pensent de ce qu'ils voient, de l'image qu'ils ont de nous, ben, c'est un énorme enjeu là, hein? On oublie que ce qu'ils voient, c'est juste une image, assez généralement faite de leur projection, et que nous ne sommes pas l'image qu'ils voient. Dans les rêves, la persona se symbolise très souvent comme les vêtements, les habits que nous portons. Et nous avons besoin de porter des habits. Ça ne se fait pas d'aller tout nu dans la rue. De toute façon, par pas mal de climats, entre autres au Québec, il fait vraiment trop froid. Donc, on a besoin de présenter quelque chose à l'extérieur. Et ce quelque chose, c'est la persona, qui est un écran entre le monde et le moi. Et cette persona, elle a une contrepartie intérieure. C'est que ce à quoi on s'identifie dans la persona, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est ce qu'il y a dans notre image, implique qu'il y a des choses que nous nions à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre, c'est le non-vécu. C'est ce que, à un certain niveau, au niveau personnel en tout cas, c'est ce que Freud appelait le refoulé. L'ombre, c'est ce que nous ignorons de nous-mêmes. Si par exemple, à 15 ans, je voulais faire de la danse classique et puis qu'on m'a dirigé vers la comptabilité parce que c'était quand même pas mal plus sérieux, la danse classique reste dans mon ombre. Et éventuellement, à 50 ans, je me mets à avoir mal aux jambes et là, il y a mon ombre qui fait vraiment mal, qui vient me chercher. qui réclame de vivre, elle réclame de participer à la vie. L'ombre, en fait, réclame d'être intégrée. Une des caractéristiques de l'ombre, c'est qu'elle apparaît très souvent dans les rêves sous la forme d'un personnage de même sexe que nous. Donc quand on est un homme, les autres hommes sont souvent des ombres, c'est-à-dire qu'ils portent des qualités qu'on apprécie, surtout si ce sont nos amis, mais qu'on ne reconnaît pas éventuellement comme les nôtres. Nos amis, justement, un des fondements de l'amitié, c'est souvent qu'on reconnaît chez les autres quelque chose qu'on aurait aimé incarner nous-mêmes ou qui vit quelque part en nous, mais auquel on n'a pas vraiment donné de place. J'ai un très beau rêve d'ombre à vous proposer grâce à une rêveuse qui a eu la gentillesse de me permettre de parler d'un rêve qu'elle a déposé dans le groupe Facebook sur les rêves. Elle est tellement directe, je vais vous le lire rapidement. Je suis sur Paris en train de faire du shopping et je croise une femme qui me rebute par sa personnalité. Je ne l'apprécie pas et par son odeur repoussante. Elle ressemble à une SDF, mais avec un visage qui m'est familier. On se connaît, on échange, et j'essaye tant bien que mal de la fuir. Mais elle veut coucher avec moi, chose dont je n'ai absolument pas envie pour toutes les raisons évoquées plus haut, et parce que je ne suis pas homosexuel. Je lui dis, mais elle insiste. Je ne sais comment, on se retrouve dans un lit. Elle me tète le sein droit. Je baisse mon regard, et pendant qu'elle me tète ce sein, je vois une mousse blanche très dense sortir de ce sein et déborder de sa bouche. Wow. Un rêve d'ombre pur. Elle ne peut pas sentir. La personne sent mauvais. On peut entendre la métaphore. On peut entendre le langage des oiseaux. Ça veut. En français, c'est très très explicite. Quelqu'un qu'on ne peut pas sentir. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Elle a des traits de personnalité que la rêveuse n'apprécie pas. C'est une autre femme. Ça rentre dans ma théorie. C'est une SDF, ou quasiment. Elle n'a pas été accueillie. Elle n'a pas de domicile. Elle n'est pas recueillie. Elle veut faire l'amour avec le moi. Qui ne veut pas, bien sûr. Au contraire, elle essaie de la fuir. C'est notre relation habituelle à l'ombre. Et finalement, il se noue un rapport tout à fait étrange, que là par contre je ne développerai pas, comme si tout d'un coup il y a du lait maternel qui nourrit cette ombre. Quand j'ai vu ce rêve dans le groupe à l'écoute des rêves, j'ai immédiatement réagi, j'ai proposé à cette personne, à cette idée-là, et puis je lui ai proposé de considérer qu'il fallait qu'elle fasse des exercices, entre autres avec cette personne, à penser à toutes les qualités qu'elle n'aimait pas, et puis se dire « je suis cela », en se regardant dans un miroir. Et pendant tout le temps où j'écrivais ça, je pensais à un livre que je vous conseille, que je vous redirai tout à l'heure, qui s'appelle, « L'ombre du chercheur de lumière », de Debbie Ford. Et il se trouve que de façon très amusante, je donne mon commentaire à cette personne. Et puis elle me répond, j'étais en train de lire, je n'ai pas mentionné le livre en question. Et elle me répond, oui, j'étais en train de lire ce livre hier soir. Je l'avais lu déjà il y a longtemps et je suis en train de le relire. Et je pense que je vais maintenant y trouver autre chose. Et ce livre est assez essentiel parce que tous les travailleurs de lumière ont tendance à un peu oublier leur ombre. Et en ça, ils risquent le complexe de Peter Pan. Vous savez, Peter Pan, il avait perdu son ombre. Et du coup, c'est un petit peu difficile de revenir sur Terre. C'est dommage. Parce que Peter Pan, il y avait quand même, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle l'attendait. Elle avait envie d'avoir une relation avec lui. Je vous dis que l'ombre apparaît comme sous la forme de personnages de notre sexe, mais ça peut aussi être des animaux. Ça peut aussi être des dimensions instinctuelles. La différence, en fait, c'est que au fond, à chaque fois qu'il y a des animaux dans les rêves, à moins que ce soit des animaux qui ont des propriétés magiques, ces animaux symbolisent des dimensions d'instinct qui ne sont pas encore humanisées, ne sont pas encore arrivées à la parole, ne sont pas encore arrivées à l'endroit où elles vont pouvoir s'exprimer en mots et en pensées. Elles sont essentiellement des pulsions. Il y a des pulsions dans l'ombre. Donc, il y a des ombres qui sont purement instinctuelles, et puis il y a des ombres qui sont déjà plus humanisées, plus proches de nous, avec qui on peut parler, qui apparaissent sous la forme de nos amis ou de personnes inconnues. Et finalement, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'il y a aussi des ombres collectives. Jung disait, par exemple, que dans les rêves des Nord-Américains, il y avait très souvent des Amérindiens, et que ça va avec le fait que les Nord-Américains ont exterminé les Amérindiens, et qu'ils font partie de leur ombre. Et qu'ils reviennent. Parce que l'ombre réclame toujours d'être reconnue, d'être réintégrée. L'individuation, c'est pas linéaire. Il y a plein d'allers-retours, donc, mais en même temps, il y a une certaine progression. Donc on commence par travailler souvent sur la persona, les masques tombent, on pourrait dire. Et là, on se rend compte qu'il y a l'ombre. Et l'ombre joue souvent un rôle de gardien du seuil. Il nous empêche d'aller plus loin jusqu'à ce qu'on accepte de la rencontrer. Et une fois qu'on l'a rencontrée, elle commence à devenir notre meilleur allié. Parce qu'en fait, autant elle peut être un adversaire coriace, parce que plus on la nie, et plus on lui donne de l'énergie, et finalement plus ça la renforce. C'est un peu le problème que rencontrait Héraclès avec Atlas, qui était un géant grec. Et Atlas se renforçait de chacun des coups qu'il recevait. Et à un moment, Héraclès a triomphé du problème en soulevant Atlas. Mais c'est pas conseillé avec l'ombre, ça peut nous écraser. Nous ne sommes pas Héraclès. Par contre, l'ombre, quand on accepte de reconnaître que ça fait partie de nous, devient un allié. Et oui, il y a des ombres collectives. Il y a des ombres archétypales. Et ça devient très difficile de composer. Un individu tout seul face à une ombre collective, c'est difficile. Si on reprend le Seigneur des Anneaux avec l'ombre qui se lève à l'est, et qu'on repense au fait que Tolkien écrivait ça dans les années où il y avait le nazisme, hein, et que les Nazgûl, c'était quand même une référence assez directe, et lui, ce qui pointait, c'était l'ombre qui se lève de l'autre côté, là-bas. Et il voyait la grande ombre. Donc, nous avons à nous occuper de nos petites ombres. Ça suffit. Et il y a un danger à vouloir s'approcher trop des ombres collectives. Et d'ailleurs, il y a une remarque de Jung qui m'a frappé récemment, qui signale que quand on pointe l'ombre, quand on pointe le mal chez les autres, généralement on devient la cible. Donc quand on commence à dénoncer la corruption, le complot, le ceci, le cela, et bien comme par hasard, on se fait dire que c'est nous qui sommes en train de comploter, et que ceci, cela. Pointer l'ombre, c'est s'exposer à ce que l'ombre se retourne contre nous. Il y a d'autres façons de travailler avec l'ombre, comme en particulier de porter une petite lumière, toujours. C'est ce que nous enseignent les contes de fées, par exemple. Le conte de fées de Vasilissa, la belle, enseigne d'une façon extraordinaire comment il suffit d'avoir une étincelle de lumière dans l'ombre pour que l'ombre fuit. Et une fois qu'on a rencontré l'ombre, qui donc, elle, réclame d'être intégrée, de participer à notre vie, s'ouvre un autre niveau de travail, généralement, et encore une fois, ce n'est pas linéaire, il y a des allers-retours. Et cet autre niveau de travail, c'est ce qu'on appelle l'anima et l'animus. Alors là, ça devient le partenaire. L'inconscient se présente sous la forme d'un partenaire. C'est-à-dire que pour un homme, il se présente généralement sous la forme d'une femme, dépendant évidemment de son orientation sexuelle. Alors là, et pour une femme, il se présente sous la forme d'un homme. Mais ce qui est important, c'est que justement le thème du mariage, le thème de l'union commence à se consteller. Il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse. Mais évidemment, ce n'est pas nécessairement simple au départ. En fait, comme généralement l'anima ou l'animus n'ont pas été reconnus, ne sont pas vécus directement, eh ben, ils sont aussi chargés de négativité. Donc la plupart du temps, on rencontre l'anima et l'animus d'abord sous des formes négatives. C'est combien de rêves on peut entendre de femmes qui sont torturées, poursuivies, etc. par le masculin négatif. Il faut dire que ça résonne aussi avec le collectif, parce que anima et animus ne sont pas des archétypes personnels. Ils sont en lien avec vraiment la dimension collective. Ils sont l'image que nous nous faisons à l'intérieur de nous, du masculin et du féminin. Et la relation qu'on a avec eux dans les rêves parle de la relation intime qu'on a avec la masculinité, la féminité. Évidemment, c'est rendu complexe par le fait que souvent se mêlent à ça nos complexes parentaux, complexe père, complexe mère, parce que le premier qui nous a initié à l'animus, c'est le père, et le premier qui nous initie à l'anima, c'est la mère. Et comme assez généralement, tant qu'on n'a pas fait le travail, on ne différencie pas bien les différents niveaux, eh ben, c'est encore une fois pogné comme dans un pain, c'est-à-dire pris dans un sandwich. Et du coup, on a tendance à projeter éventuellement sa mère sur sa compagne, ou à attendre de son compagnon qu'il se conduise comme un père. C'est tout à fait typique, et ça dénote simplement de ce qu'il y a un travail de différenciation qui n'a pas été fait. Et là encore, il arrive que ces archétypes apparaissent sous la forme d'animaux, qui ne sont pas encore vraiment humanisés. Et de toute façon, je vais vous décourager peut-être un peu, et les archétypes, il n'y a pas de frontière claire entre eux. L'anima peut apparaître dans l'ombre. Une femme noire pour un homme blanc, à moins qu'il ait une relation particulière avec les femmes noires, justement, mais sinon, comme l'Afrique est dans l'ombre de l'Europe, par exemple, de la même manière que les Amérindiens sont dans l'ombre des Nord-Américains, ben, une femme noire, il y a de fortes chances qu'elle symbolise une anima, mais une anima qui est dans l'ombre. Une anima qui n'est absolument pas vécue, qui n'est absolument pas rencontrée. Il n'y a pas de frontière clairement définie. Je vois un message, mais j'essaie de vous décourager. Je teste votre courage pour répondre à quelqu'un qui me dit, qui me demande si je crois que je vais arriver à vous décourager. Il n'y a pas de frontière clairement définie entre les archétypes. Encore une fois, ce ne sont pas des objets. Ce sont des réalités vivantes. Et comme derrière cette réalité vivante, il y a une unité. Il y a un seul être qui apparaît derrière toutes ces facettes, dans toutes ces facettes. Les frontières, c'est encore notre mental objectif qui veut que qui veut séparer les choses, qui veut les diviser, qui fait appel au diaboline pour les diviser. Et les symboles les réunissent. Et c'est à partir de là. Vous voyez, on avait déjà le thème du mariage. Ah non, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. Je vous disais, l'ombre réclame d'être intégrée. L'ombre, c'est l'inconscient qui réclame d'être intégré. On pourrait dire que l'ombre, c'est un visage que l'inconscient prend pour être intégré. L'anima ou l'animus, c'est un visage que l'inconscient prend pour dire « Je suis ton partenaire. Tu ne m'intégreras jamais complètement. » Pour moi qui suis un homme, par exemple, l'anima m'envoie toujours un clin d'œil en me disant « tu ne sauras jamais vraiment ce que c'est que d'être une femme. Ce sera toujours un inconnu pour toi. Et tu vas devoir être partenaire de cette féminité. Et tu l'as pourtant à l'intérieur. Et partenaire à l'extérieur dans la vie et partenaire à l'intérieur. Sans jamais pouvoir l'intégrer complètement. Mais la proposition, c'est l'union. La proposition, c'est la recherche de la rencontre entre les deux pôles. C'est la réunion des opposés, donc c'est l'action du soi. Un petit rêve qui rapidement illustre ça, je me souviens d'un rêve de Guy Corneau, qui m'avait beaucoup touché, où Guy était dans une chambre, je crois en caleçon, et il y avait une femme à l'autre bout de la chambre, dévêtue, et elle lui semblait très attirante. Et au moment où il allait vers elle, la porte s'ouvre et il y avait sa mère en chemise de nuit dans la porte. Ben là, on est devant une problématique typique d'Anima, qui le commentait d'ailleurs de façon très intéressante, pour dire, ben voilà, de toute façon, la relation avec l'Anima est typiquement parasitée par la relation avec la mère. Évidemment, la réaction juste par rapport à ce rêve, c'est de fermer la porte à la mère, en disant, excuse-moi, je suis occupé, c'est pas pour toi. Et ça, comme quoi, les choses ne sont pas séparées, mais dans les rêves, par contre, il faut être capable, des fois, de poser certaines limites à certains archétypes. Et finalement, je vous ai parlé du soi comme apparaissant dans des mandalas. Alors des mandalas, c'est des figures rondes, c'est des figures carrées, c'est des figures ordonnées, dans lesquelles assez généralement, c'est comme des roues de médecine par exemple, dans lesquelles les directions sont marquées. Vous avez les mandalas tibétains qui sont des représentations merveilleuses, c'est-à-dire dans chaque direction, il y a une divinité. Ce sont les gardiens des portes. Et le principe du mandala, c'est qu'il met de l'ordre. Il met de l'ordre dans l'univers, il met de l'ordre dans le chaos. Et c'est la fonction fondamentale du soi qui, en fait, réconcilie ensemble les opposés. On pourrait dire que le soi, si on le regarde encore une fois comme l'image de Dieu, il nous renvoie comme clin d'œil, il dit oui, dans le monde, il y a des opposés, ils se déchirent, le bien et le mal, tout ça. Mais il y a quelque chose qui les fait tenir ensemble, et c'est ça le monde. Et c'est ça l'univers, et c'est ça l'unité sous-jacente, c'est ça le mystère. Notre erreur est très généralement de tomber d'un côté, par exemple de nous identifier au bien. Et on dit, moi je suis du côté du bien et eux ils sont mal. Et là on est pris par un archétype, et on nie l'autre côté, et l'autre côté est renvoyé dans l'inconscient. En faisant ça, on s'identifie à une facette et on en nie une autre. Alors que quelque part, ce que nous communique le soi, c'est que toute l'humanité fait partie de nous. Donc par exemple, quand quelqu'un vient me voir et me dit, moi, je suis honnête, je déteste le mensonge, je suis mais complètement honnête, je ne comprends pas qu'on puisse mentir. Je n'y vais pas nécessairement trop frontalement parce que ça pourrait vexer la personne, mais la question qui se pose tout de suite, c'est mais où il est passé le menteur? Parce que il fait partie de l'humanité. Il fait partie de l'humanité. Donc il est dans l'ombre. Donc il est dans l'inconscient. Il n'est pas vécu. Pourtant, je vous rappelle que Hermès est le dieu des menteurs. Donc il y a des dieux pour les menteurs aussi. Ils ne sont pas exclus, les menteurs. Le soleil brille pour tout le monde. Et le soi est cette dimension qui les réunit, tous. Et qui, dans un mandala, va mettre, par exemple, dans une direction le menteur. Et en face, la personne honnête. Et dire, ben voilà, le monde, il est fait d'une tendance vers l'honnêteté qui a aussi sa contrepartie, c'est que si l'honnêteté existe, ben il y a aussi le mensonge. Et comme la vérité est toujours quelque chose qui est assez difficile à manier, on ne peut jamais être sûr de dire toute la vérité, on peut en oublier toujours une petite partie ou la déformer, eh ben, on doit vivre avec le fait que on est entre les opposés. Et donc le soi symbolise tout ça à travers des mandalas. Mandala, par exemple, dans un de mes rêves, à un moment, je me retrouve dans une place ronde, immense, très grande, et à chaque fois, il y a des immenses avenues qui partent. Et ce qui m'est dit à l'intérieur, c'est que peu importe quelle avenue je vais prendre, j'arriverai toujours au centre. Alors c'est complètement paradoxal, parce qu'en fait, le centre de la place est derrière moi quand je prends une avenue. Mais ça me dit, prends n'importe quelle avenue et tu arriveras au centre. Le soi se manifeste aussi dans les rêves avec les paradoxes. Les paradoxes, c'est le moment où les opposés sont ensemble. C'est le moment où justement la logique linéaire est brisée parce que ça ne fonctionne plus. C'est bien et mal en même temps, comme le Dao, vous savez, le Dao qui réunit le yin et le yang. Et finalement, le soi apparaît volontiers dans les rêves avec des figures de vieux sages, de vieilles femmes, mais alors millénaires. Par exemple, un jour, personnellement, j'avais une grande décision à prendre dans ma vie. Je me suis retrouvé face à une vieille femme qui avait la peau parcheminée, la ridée totalement. Et je savais, en la voyant, que c'était la Pachamama. Et la Pachamama me montrait une espèce de sentier boueux. Elle m'a dit, Estalvia la via del hombre, c'était la voix de l'homme. Et ma décision était claire, instantanément. Je savais ce qu'elle voulait, ce que le soi me demandait de faire. Vous avez une forme du soi, par exemple, qui apparaît assez souvent, c'est l'enfant divin. Un enfant qui vient de naître et qui se met à parler, qui marche, ou qui soulève d'un petit doigt et soulève un camion. Vous avez le vieillard millénaire. Vous avez éventuellement le bébé à visage de vieillard. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, les deux opposés sont ensemble. Évidemment, on ne peut pas épuiser, on pourrait écrire un livre au complet sur les symboles du soi qu'on n'y arriverait pas. Je regarde l'heure. Je vais encore avancer 5-10 minutes avant qu'on prenne une petite pause pour vous fournir vraiment là les éléments pratiques, comment on travaille les rêves une fois qu'on a tous ces éléments théoriques avec Jung. En fait, ça passe par une série d'étapes qui sont très simples et qui sont en fait très logiques avec ce que je vous ai essayé de vous transmettre, la théorie. Mais déjà, le préalable, c'est que quand on entend un rêve, la porte d'entrée, c'est je ne sais pas. Si on croit savoir au moment où on entend un rêve, de quoi il est question, comment il faut l'interpréter, on peut être sûr et certain qu'on est en train de remettre le rêve dans du connu. Et ça, même quand on est analyste, en fait, surtout quand on est analyste de rêve, il y a une règle, c'est que vraiment, de toute façon, l'analyste ne connaît pas la solution avant d'avoir l'interprétation du rêve, avant de s'être laissé toucher par le rêve, de s'être laissé travailler par le rêve. Jung lui-même disait que il avait entendu, vers la fin de sa vie, il pensait qu'il avait entendu 80 000 rêves. Et qu'après 80 000 rêves, il avait encore et toujours ce je ne sais pas qui venait dans sa tête quand il entendait un rêve. Toujours ce moment un peu de panique, d'inquiétude, à se dire, ouais, mais là, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est que ça. Je ne sais pas. Et ce je ne sais pas est extrêmement important parce que c'est la porte ouverte qui permet à l'inconscient de s'engouffrer et de venir travailler à l'intérieur de la personne qui veut interpréter le rêve, pour répondre au rêve. C'est une des choses que dit Marie-Louise von Franz. Elle dit, Dieu merci, l'inconscient est intéressé à ce qu'on comprenne les rêves, sinon on n'y arriverait pas. Alors avec le je sais pas, le premier ingrédient, c'est la confiance. Confiance dans ce qui nous vient. Pas pour en faire une vérité définitive, mais pour dire, ok, j'y vais. Je prends le risque. On va voir où c'est que ça nous amène. Et justement, une fois que le rêve a été dit, alors personnellement, moi j'insiste sur le fait que c'est mieux qu'un rêve soit dit au présent, parce que ça permet de revivre le rêve. Hein, je suis plutôt que j'étais. Mais ça, Jung n'avait pas de disposition particulière là-dessus, c'est la Gestalt qui amène ça, mais c'est vraiment très efficace. Ça permet vraiment de re-rêver le rêve. Mais une fois qu'on a entendu le rêve, la première étape pour Jung, c'est de laisser parler l'intuition, sans poser aucune question. D'abord, la première intuition, ou ce que les gens qui travaillent avec moi en loge de rêve appelleront une résonance, la première chose qui vient à l'esprit. Et c'est valable pour nos propres rêves. On écrit un rêve et la première chose à laquelle faire attention, c'est notre intuition. Ensuite, on identifie les symboles. Alors, il y a toutes sortes de symboles. S'il y a un chien dans un rêve, c'est un symbole. Si il y a une voiture qui passe, c'est un symbole. Tout est symbolique. On peut tout interroger. On peut même interroger des éléments explicites, comme c'est quel moment de la journée ou de la nuit? Est-ce que c'est le matin ou le soir? C'est pas pareil. On est où? Les lieux, le temps sont très importants. Et tous les éléments symboliques. Et là, ce que faisait Jung, c'est qu'il questionnait les associations. Entre autres, à quoi ça te fait penser? S'il y a un chien dans le rêve, C'est quoi ton histoire avec les chiens? À quoi ça te fait penser? Ah ben, le rêveur va dire, ben moi j'aime particulièrement les chiens. J'ai toujours eu des chiens, d'ailleurs je suis très malheureux parce que j'ai plus de chiens depuis quelques années, parce que je vis dans un tout petit appartement. Bon, on tient compte de ça. Et puis, c'est le moment des questions, il y a une question qu'il faut toujours poser. C'est, est-ce qu'il y avait une préoccupation particulière au moment du rêve? La veille, dans les jours qui précédaient, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y avait une question particulière? Parce que le rêve arrive rarement out of the blue. Il répond à un mouvement de la conscience. Assez souvent, quand on a la réponse à la question qu'est-ce qui te préoccupe, on a déjà une très très bonne idée. Très souvent, les symboles deviennent explicites. Et puis, quand on a fait le tour, et ça peut prendre du temps, des associations, alors, par rapport aux associations, moi je rajouterais que justement ce que nous enseigne peut-être la Gestalt et toutes les techniques au-delà de l'interprétation, c'est que c'est très important d'interroger aussi les émotions qui sont liées au rêve. C'est que souvent les connexions que le rêve va faire avec le vécu du rêveur se fait à travers les émotions et non pas à travers des idées. Ça, c'est quelque chose que par contre Jung n'avait pas élaboré à son époque. Pour lui, on discutait des symboles. Mais si, par exemple, avec mon chien, quelque part, je dis, ben, ah, le chien, quand je l'ai vu, mais, ah, j'ai craqué, j'ai eu envie de le voler, c'est un tellement beau chien, et on peut me demander, mais t'as ressenti ça ces derniers jours, quelque part dans ta vie? Et ça peut n'avoir rien à voir. Ça peut être éventuellement une proposition d'emploi qu'on m'a fait et que je me suis dit, oh, c'est pas pour moi, mais oui, peut-être, c'est génial. Ah, mais c'est pas pour moi. Et l'émotion est une connexion beaucoup plus forte entre les éléments du rêve, du vécu, que toutes les associations mentales. Mais une fois qu'on a fait le tour des associations, des questions, là, on passe à la phase d'amplification. L'amplification, c'est qu'on va aller chercher les histoires, les contes, les films, les livres qui vont évoquer des thèmes collectifs en rapport avec des symboles du rêve, si on en connaît. Alors c'est là que l'interprétation des rêves commence à être quelque chose qui réclame de s'intéresser aux contes, aux rêves, etc. En même temps, très sincèrement, ça ouvre plus large, mais je crois qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à d'excellentes interprétations sans avoir un gros bagage mythologique ou un gros bagage de cet ordre-là. Mais pour continuer mon exemple du chien, ben, une fois qu'on a fait le tour des associations, je peux être amené à dire à la personne, est-ce que tu te souviens que chez les Grecs, il y a un chien, Cerbère, qui garde la porte des enfers? Et puis, savais-tu que chez les Dogons, non pas chez les Dogons, chez les Mexicains, le chien Xolotl, c'est le passeur qui amène les âmes des morts de l'autre côté. Est-ce que tu es conscient de ce lien du chien avec l'autre côté, son côté psychopompe, on appelle? Et ça, éventuellement, va déclencher quelque chose chez le rêveur. Par exemple, va dire, ah mais oui, mais ce travail, justement, que j'ai, qui m'a tellement parlé, que j'ai émotionnellement associé au chien, eh ben, j'ai l'impression qu'il pourrait me faire découvrir quelque chose de moi que je ne connais pas. Quelque chose qui était mort, peut-être. Bon. Vous avez des. Voilà. Les amplifications sont une façon d'aller chercher des résonances chez le rêveur. D'ailleurs, je déconseille fortement les dictionnaires de symboles qui réduisent les symboles en disant ce n'est que. Mais il y a des dictionnaires de symboles, je vous en citerai un tout à l'heure, qui parlent simplement des symboles dans toutes les cultures et dans tous les mythes. Et là, c'est très intéressant à discuter avec le rêveur ou la rêveuse en disant, tiens, le symbole du chien, t'as vu, chez les Dogons, c'est ça, en Grèce, c'est ça, au Vietnam, c'est ça, etc. Et éventuellement, il y a un déclic. Il dit, ah, ben moi, c'est l'histoire vietnamienne qui me parle. Et c'est une fois qu'on est passé par les questions, les associations, l'amplification, qu'on peut risquer une interprétation. Et je dis bien risqué, c'est toujours une proposition. C'est une proposition, ça ne doit pas avoir force de vérité. Un des pièges de l'interprétation, c'est la position d'autorité, c'est la position de celui ou celle qui sait. Qui dit, ah, moi, je vais te dire ce que ton rêve veut dire. Parce que c'est une proposition, et ce qui est intéressant, c'est que si cette proposition touche juste, elle déclenche un mouvement intérieur chez le rêveur ou la rêveuse. Il y a un déclic, il y a un ah-ah. Ah oui, c'est ça me parle. Et ça vaut même pour notre travail sur nos propres rêves. Où déjà le simple fait de noter nos rêves nous permet de parcourir les symboles, mais si on fait un travail systématique avec première intuition, les associations, puis on commence à y aller avec, à aller chercher un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme amplification. Et finalement, on risque une interprétation. On la sent si cette interprétation elle est valable ou pas. On sent si c'est quelque chose de plaqué par la tête. Généralement, ça nous vient de l'extérieur. On a lu un bouquin qui nous dit que quand il y a des crocodiles et des chiens dans nos rêves, ça veut dire que on a un problème, je sais pas moi, on a un problème sexuel. Puis là, tout d'un coup, on se dit, ah mon Dieu, j'ai un problème sexuel. Le bouquin l'a dit, mais ça ne résonne pas vraiment. D'un coup, le chien et le crocodile sont amis dans le rêve et on dit, mais ça. Quel est l'intérêt de l'amplification pour le rêveur? C'est de se relier à l'intention collective, à l'inconscient collectif. C'est d'aller chercher, c'est de dépasser le personnel. C'est de ramener ses préoccupations personnelles dans le champ plus large de la grande histoire de l'humanité. D'ailleurs, ça introduit quelque chose que je voulais dire, qu'une des difficultés est souvent de distinguer entre le niveau archétypal et le niveau personnel dans un rêve. Un exemple typique. Les rêves dans lesquels il y a des enfants. Nous, on est devenu une culture très centrée sur l'enfant, avec toute l'affaire de l'enfant intérieur dont il faut prendre soin, avec ses blessures, puis etc. Et ça amène assez souvent des interprétations de rêves qui sont réductrices à simplement les malheurs de l'enfant. Et cependant, l'enfant représente très souvent le nouveau, la nouvelle vie, les projets, et donc il a une dimension archétypale qui peut même représenter l'enfant divin. C'est souvent intéressant de faire des interprétations à différents niveaux, c'est-à-dire de regarder le côté inconscient personnel, qu'est-ce que ça signifie au niveau d'un enfant intérieur, et si cet enfant intérieur était un élément archétypal, qu'est-ce que ça m'enseignerait? Rapidement, l'interprétation. Au-delà de cette procédure que je viens de vous donner, elle implique assez souvent de regarder où c'est qu'il y a des oppositions dans le rêve. C'est quoi le jeu des opposés? C'est où qu'il y a le blanc et le noir? Parce que c'est là qu'est la dynamique du rêve. Elle implique aussi de regarder la structure du rêve, selon que, par exemple, c'est un rêve en problème et solution. Ou par exemple, les rêves en trois parties sont souvent des rêves où il y a une situation, un seuil et quelque chose après le seuil. Donc ça, c'est intéressant, c'est des mouvements énergétiques qu'on arrive à repérer. On repère dans la structure du rêve qu'il y a, je sais pas moi, il y a un petit homme et une grande femme. Ah, on a des contraires. Ils tiennent éventuellement des discours très différents, puis finalement, on les voit partir ensemble à la fin. Ah tiens. On peut regarder, on peut prêter attention aussi aux incongruités. Tout ce qui est bizarre, tout ce qu'on appelle un indice onirique. Un indice onirique, c'est quelque chose qui, si on en était conscient dans le rêve, on réaliserait qu'on est en train de rêver. Je suis en train de marcher et je marche au plafond. Ah, c'est pas habituel. Dans mon rêve, ça pose pas de problème, je m'en rends pas compte. Mais si j'avais ma conscience ordinaire dans mon rêve, ça serait un signal qui me signalerait que je suis en train de rêver. Donc je commencerais à devenir lucide. Donc c'est un endroit où la conscience de rêve, la source du rêve, s'est amusée à glisser un détail qui attire notre attention, qui appelle notre attention. Et si elle me dit que je marche au plafond, j'ai intérêt à faire attention à ce que ça veut dire. Je pourrais tomber. Je vous ai déjà parlé des connexions entre l'énergie, l'émotion, les énergies et les connexions entre le vécu. Une autre difficulté de l'interprétation, c'est de savoir s'il faut interpréter le rêve sur le plan subjectif, c'est-à-dire intérieur ou extérieur. En particulier s'il y a des personnes connues. Si j'ai un rêve dans lequel je discute avec ma conjointe, est-ce que c'est ma conjointe à l'intérieur de moi qui symbolise quelque chose? Ou est-ce que c'est une situation avec ma conjointe qui est symbolisée? Eh bien, généralement, on ne peut pas décider. Et Jung recommande de faire deux interprétations en parallèle. En disant, de toute façon, si vous avez reçu un rêve objectif par rapport à la situation, c'est que ça vous concerne intérieurement. Donc, il faut comprendre en quoi ça vous concerne intérieurement. Ce n'est pas seulement objectif. Et finalement, la règle d'or. La seule chose qu'il ne faut pas oublier. La seule. C'est facile, j'ai tout ce discours. 2 h 15 de discours pour vous livrer finalement la seule chose qu'il ne faut pas oublier. Je vous ai dit au début, le rêve, c'est fait partie d'un processus de création de conscience. Il y a quelque chose d'inconscient qui veut devenir conscient. Ce n'est jamais quelque chose que nous connaissons déjà, que le rêve cherche à dire. Donc, la règle d'or, c'est qu'est-ce que le rêve amène à la conscience? Le rêve amène toujours quelque chose de nouveau à la conscience. Une question intéressante, c'est de quoi ne serais-je pas conscient sans ce rêve? En quoi ce rêve élargit ma conscience, me permet d'avoir une vision plus large? Et encore une fois, ce qui est le plus important, c'est le mouvement intérieur. C'est le mouvement intérieur. Un bon travail de rêve est un travail qui déclenche un mouvement. D'ailleurs, Jung disait qu'on n'a besoin d'aucune connaissance spécifique pour connaître un rêve. Il suffit de tourner autour suffisamment longtemps et tôt ou tard, il y a un mouvement à l'intérieur. Et je terminerai en disant que ce mouvement n'est pas nécessairement une interprétation, ça peut être une envie de danser, une envie d'aller planter des tomates, de faire de la peinture. Il y a toutes sortes d'expressions. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller explorer ce qui est au-delà de l'interprétation, mais ça, ce sera une autre fois. Pour conclure la conférence, parce que voilà, je vous ai livré tous les éléments théoriques. Je parlerai d'une image de rêve qui m'a beaucoup frappé ces derniers jours, m'a été partagée et dans laquelle il y avait une grande oreille qui écoutait des histoires. Et ces histoires, quand elles étaient entendues, elles étaient traduites, elles étaient transformées en poésie. Une poésie kinesthésique, une poésie visuelle, sonore, tactile, vivante. Et moi, je me suis exclamé en entendant ça, mais ça, c'est les rêves. Ça, c'est le travail avec les rêves. Parce que tous nos petits problèmes de la vie, etc., ce sont toutes nos petites histoires. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous, mais semble-t-il aussi dans l'univers, qui récupère toutes ces petites histoires et qui les amène à un autre niveau, c'est-à-dire dans des images vivantes. C'est de la poésie, c'est des rêves. C'est une des plus belles idées que j'ai entendues venant d'un rêve à propos de ce travail. Il me semble que j'en ai parlé, me dit la rêveuse, mais elle me dit que je ne m'en suis pas exclamé à voix haute. Ben, pourtant, je m'en suis exclamé que c'était. Voilà. On va se prendre 5 minutes de pause à nouveau, et cette fois, je n'ai pas fini de parler, mais c'est que je répondrai à vos questions, ou encore mieux, on interprétera deux rêves ensemble. 5 petites minutes de pause. À tout de suite. Donc voilà, c'est reparti. Avant de vous donner la parole, je réponds très rapidement à deux questions extrêmement intéressantes qui ont été posées. Il y a Christophe qui a demandé si ce qu'il en était du soi duel ou de l'ombre du soi. Alors ça, c'est une question très poussée, là, extrêmement intéressante, parce qu'en effet, Jung a envisagé la dimension de l'ombre du soi. Et par exemple, si le soi apparaît comme divin, on peut penser que tout ce qui est diabolique et démoniaque est du côté de l'ombre du soi. Et en même temps, c'est contradictoire avec le fait que le soi soit au-delà des opposés. Pour Jung, de toute façon, il y avait un problème dans la civilisation chrétienne, c'est que comme on identifiait Dieu seulement au bien, on laissait tout le mal retomber sur l'être humain. Il devenait seulement responsable du mal. Donc pour lui, en effet, le divin a aussi un côté obscur. Le soi a un côté obscur, le soi a une ombre. Et au fond, la réponse à cette question-là, c'est que le soi en lui-même est au-delà des opposés, mais dans la perception de l'être humain, la perception de l'être humain est toujours entachée de dualité. Donc nous allons toujours voir un côté lumineux et un côté obscur. C'est juste que le soi ne fait pas de différence, enfin il unit ces deux aspects en quelque chose qui dépasse nos catégories. Ça renvoie au fait que c'est ce que Kant disait, c'est que l'être en soi est au-delà de nos catégories, au-delà de ce que nous pouvons mentalement appréhender. Et puis il y a une autre question de Julie, je crois. Herbert, si l'ombre d'une théorie était l'ombre de celui qui l'a créée, c'est vraisemblable. Ça commence à rentrer dans de vastes discussions. J'ajouterais par rapport à ce que tu dis, Herbert, que en fait, toutes les théories d'après von Franz, c'est très intéressant ce qu'elle dit, elles ont un point aveugle. Et que ce point aveugle, c'est par là qu'entre l'inconscient. Et que c'est ce qui permet qu'il y ait de nouvelles théories qui émergent et que les théories sont liées les unes aux autres comme des maillons d'une chaîne par leur point aveugle. L'autre question de Julie, c'était est-ce que la femme noire dont je parlais tout à l'heure, c'est l'anima de l'ombre ou l'ombre de l'anima? Alors ça, c'est une superbe question et je n'ai pas de réponse parce que je pense que ce sont les deux. Ça dépend vraiment du contexte. L'anima peut avoir une ombre, l'ombre peut avoir une anima. Les deux sont pris ensemble et ça devient impossible de les distinguer. Je dirais que pour y répondre, il faut parler avec ce personnage. Ça, c'est dans des techniques avancées où... Oui, c'est comme les matrioshkas, exactement. C'est ça, c'est emboîté. Et les archétypes sont emboîtés les uns dans les autres. Bienvenue. Alors, la parole à vous. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser maintenant ou est-ce qu'il y a un rêve? J'ai entendu que Muriel passait un message en disant qu'elle avait un rêve. Alors, ce temps vous appartient? Moi, j'ai déjà beaucoup
Merci.
parlé.
Quand j'ai fait ce rêve-là, après j'avais mon interprétation, mais après ta conférence, ben, il est venu plein d'autres éléments qui se sont ajoutés. En tout cas, je vais le raconter. Je suis dans une maison. Je vois la porte de devant et à travers la fenêtre, je vois deux chiens qui sont sur le petit trottoir qui mène à la galerie. Ils sont très gros. Il y a un poil très long avec du noir et du blanc. Les deux chiens étaient en noir et en blanc. Pas un chien noir ou un chien blanc. Les deux avaient du noir et du blanc. Comme je le disais, leur pelage était très long et je remarque qu'il est très lustré et avec une impression de propreté. Et ils bougent au gré du vent. Ils me semblent très amicaux, les chiens, et j'ai l'impression qu'ils sont des gardiens. Je m'avance pour ouvrir la porte et sortir les rencontrer. Je croyais que la porte était barrée, mais ce n'était pas le cas. Cela m'a surpris un peu. Au même moment, avant d'ouvrir la porte complètement, je vois l'épaule de quelqu'un qui se tient le long du mur et j'ai un peu peur car j'ai l'impression qu'il se cache, car il s'est retiré vite pour ne pas que je le voie. Je referme vitement la porte J'espère pouvoir la rebarrer avant qu'il la saisisse pour entrer brusquement, car je sais que je ne serai pas assez forte pour retenir la porte. Mais je réussis à la refermer, et en voulant la rebarrer, je m'aperçois qu'il n'a pas essayé d'entrer. Je me réveille en me disant que j'ai eu peur pour rien, et je me demandais qui il pouvait être. Et je me posais des questions, c'est-à-dire, je me posais pas de questions, j'avais toujours en tête la beauté des chiens. Je les trouvais très, très beaux.
Merci. Merci pour ce rêve. Alors, on commence toujours par l'intuition. Qui c'est qui a des intuitions à proposer? Une résonance directe, immédiate. Qu'est-ce qui vous est venu en écoutant ce rêve?
Est-ce que tu me poses la question à moi ou à tout le monde?
Non, je pose à tout le monde. On va commencer avec tout le monde et puis on reviendra à toi, Muriel, après, si tu veux. Juste D'accord. prendre justement des résonances, puisque toi, tu as déjà fait ton travail d'interprétation. Alors, vous pouvez y aller comme dans l'âge de rêve, si c'était votre rêve, vous pouvez simplement dire, ben voilà, ce rêve me fait penser à... Qu'est-ce qui vous est venu spontanément? Les chiens gardiens du seuil. Les chiens me font sentir en sécurité.
Faut l'écrire ou on peut parler?
Vous pouvez parler. Moi, si c'est écrit, je le lis. Même si tout le monde va le lire, mais en fait, ça, je trouve ça bien que ce soit amené au niveau verbal. Sinon, vous pouvez parler. Pas obligé de rester avec le micro fermé.
Oui, moi, comme ça m'a parlé, c'est que comme les chiens sont des gardiens amicaux. On rentre dans un espace qui est très personnel et dans lequel je n'arrive pas à fermer une porte. J'ai eu le sentiment de rentrer chez moi, mais de craindre quelque chose, de rentrer dans un endroit où j'avais encore une peur, quoi, quelque chose qu'il fallait que je ferme.
Merci. Oui, moi je suis frappé par le contraste noir-blanc des chiens, comme si eux, ils intègrent justement les deux côtés, les opposés, et puis ils représentent ils communiquent un sentiment de sécurité, alors que par rapport à d'un autre côté, il y a une peur, il y a un besoin de fermer une porte, et finalement il n'y a pas de danger. Catherine, tu voulais dire quelque chose?
Oui, alors si c'était mon rêve, j'irais à la rencontre de cet homme et je lui proposerais d'aller promener les chiens ensemble.
Merci. Louise a levé la main. Oui, d'ailleurs, il y a moyen de lever la main à travers... Voilà, on découvre Zoom. Merci Louise, vas-y.
Si c'était mon rêve, je me poserais la question de... Ce que ça vient réveiller chez moi, c'est... Comment fait-il, qu'est-ce qui fait que cet homme, il a aussi peur de moi que j'ai peur de lui? C'est l'impression qu'il me reste. J'ai l'impression que les chiens, ils sont là pour faire le pont entre les deux.
Hein, merci. Encore d'autres?
Moi, si c'était mon rêve, je resterai dans cette fascination de la beauté de cette image. Là, je la vois encore avec le vent qui souffle dans les poils des chiens et qui brille. Et je le ressens comme une sorte de graal, de destination.
Merci. Merci. Il y a Julie a envoyé une résonance qu'elle trouve très intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais celle-là, je capte, elle était trop longue pour être lue facilement sur l'écran. Elle dit, si c'était mon rêve, je réciterais le poème d'Apollinaire, suivant pour célébrer mon ambiguïté entre peur et beauté de ce passage à venir. Venez jusqu'au bord. Nous ne pouvons pas, nous avons peur. Venez jusqu'au bord. Nous ne pouvons pas, nous allons tomber. Venez jusqu'au bord. Ils y sont allés. Il les a poussés. Et ils se sont envolés. Et Catalina fait remarquer que Muriel, ce qu'elle garde en mémoire, c'est la beauté des chiens. c'est ce qui reste. Voilà. C'est peut-être plus difficile, en effet, de capter toutes les résonances par écrit, comme ça, j'en attrape comme ça. Déjà, là, et ça, les habitués des loges de rêve y ont goûté, ils goûtent, hein, comment juste des résonances intuitives amplifient le rêve. Et Muriel, après avoir entendu ces résonances, où es-tu avec ton rêve?
Eh bien, je vous remercie beaucoup, parce que tout ce qui a été dit me touche, me parle. Ça me conforte, là, peut-être dans ce que je pensais, mais que j'étais pas certaine. Chaque intervention a une résonance chez moi, et plausible, oui, beaucoup. Le fait d'avoir peur pour rien, cette résonance-là est vraiment présente là, chez moi. Là. Que, autrement dit, j'ai une peur à travailler, à transcender, à dépasser.
Alors justement, ça nous amène peut-être à la question qu'il ne faut pas oublier quand on est dans le travail d'interprétation des rêves, qui est simplement, est-ce qu'il y avait une préoccupation particulière la veille, avant d'aller dormir, enfin, avant d'avoir ce rêve, dans les jours qui ont précédé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a peut-être réveillé cette peur, une insécurité? Est-ce qu'il y avait une préoccupation particulière?
C'est difficile à dire, parce que on vit à l'heure actuelle, dans un tas de confinement, c'est qu'on a quasiment peur de tout. je suis pas capable là, de dire que, à part le confinement, s'il y avait d'autres sortes de peurs que j'avais là, avant d'aller m'endormir. Là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme un aboutissement de plusieurs choses, peut-être. Là. Je le sais pas. Sauf que l'interprétation de chaque personne me dirige un peu. Là. L'homme qui se cache, là, je le voyais plus comme peut-être un événement ou une chose ou je sais pas, une situation. Sauf que il y a des personnes qui m'ont vraiment dit que c'était un personnage, vraiment. Alors peut-être que je vais regarder de ce côté-là. Vraiment, là, quel personnage pourrait être identifié dans ce rêve-là?
D'accord. Il y a Herbert qui a levé la main.
Oui, moi, ce à quoi ça me fait penser ce rêve, c'est que je focalise toute mon attention sur l'homme et sur la peur, et j'oublie le fait que, quelque part, je reviens chez moi. Je rentre à nouveau chez moi, et je suis et protégé et accueilli par ces chiens. Et il y a une forme d'oubli de choses... spécial par rapport à quelque chose qui s'évanouit au final, en fait.
Oui, merci.
Alors avant d'interpréter complètement le rêve, on va respecter la procédure. Oui, Catalina fait remarquer qu'elle peut fermer la porte, en effet. C'est le moment de poser des questions à Muriel. Donc j'en ai posé une, la question de base, qui est à propos de la préoccupation. Et quelle question vous poseriez assez logiquement tout de suite en entendant ce rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Muriel? Oui.
Juste question idiote, c'est quoi la galerie?
Ah, là on est sur du vocabulaire franco-québécois, en effet. Et oui, Philippe pose une question, la question sur que représentent les chiens pour Muriel. Mais en effet, d'abord peut-être là expliquer, Muriel, qu'est-ce que c'est qu'une galerie quand on n'est pas au Québec?
Alors, j'essaie d'essayer de trouver un autre mot. Je ne sais pas, je ne trouve pas d'autres mots pour galerie. Soit j'ai
un... Ouais, c'est un peu comme le balcon, c'est la partie avancée de la maison au dehors. C'est-à-dire que les maisons québécoises ont souvent un toit qui avance un petit peu vers l'extérieur et un espace qui n'est pas encore l'intérieur de la maison, mais qui est déjà souvent en bois, etc. Un perron, oui, par exemple, en effet.
Ah, ok, oui, d'accord.
Hein, qui peut être assez grand, comme vous avez des films qui nous montrent les maisons nord-américaines, puis vous voyez un gars sur un rocking chair en train de... il est dehors, il est à l'abri. Vous voyez, un Porsche aussi, mais c'est... Ouais. Alors, il y a une question que Philippe posait, qui est peut-être la première question clé symbolique, évidente, mais qu'est-ce que les chiens peuvent représenter pour toi, Muriel ? À quoi ils te font penser ? Qu'est-ce que tu associes aux chiens ?
Moi, personnellement, un chien, c'est un gardien, c'est un ami. J'ai pas d'animaux, j'ai pas d'animal de compagnie, mais j'aime les animaux en général. J'aime parler aux animaux. Puis c'est ça. Les animaux, c'est comme des gardiens, des bons amis, des êtres qui veulent nous communiquer. C'est ça pour moi.
Merci. Une question, parce que peut-être quelque chose que moi j'ai raté, mais est-ce que c'est le matin, le soir, l'après-midi? À quel moment de la journée?
Il fait clair, donc je pense que ça devait être le jour.
Le jour, d'accord, rien de particulier. Parce que je cherche éventuellement, matin, soir sont des moments qui peuvent être spécifiques symboliquement. Et à Sonia qui a envoyé une question qui demande dans quel sens les chiens regardent-ils? C'est-à-dire, est-ce qu'ils te regardent, Muriel? Oui, il y a une communication établie avec eux.
Ils sont retournés vers moi, puis ils sont calmes, tranquilles. La chose au départ, que là, sur le coup, je suis restée surprise parce qu'ils étaient très gros. C'était des gros, gros, gros chiens. Un peu comme les Saint-Bernard, là, sauf qu'il y avait le poil beaucoup plus long. La race de chiens qui ont le poil très très long, là, qui bat au vent, là. C'était comme ça, mais c'était gros comme des Saint-Bernard. Là. C'est pour ça que, sur le coup, je suis restée surprise. Là. Mais il n'y avait pas une impression, il était amical, j'avais un sentiment amical. Quand il me regardait, il était là, calme, bien calme, tranquille, zen, on peut dire ça comme ça.
Zen, c'est intéressant comme contraste avec la peur. Hein, tout d'un coup, on trouve un jeu de contraste avec la peur. Il y a plusieurs questions qui sont passées. C'est chez toi, hein, c'est bien ta maison, hein, c'est une maison. Tu n'as pas d'autres informations.
Ce que je voyais, moi, c'était j'étais face à la porte d'entrée.
D'accord.
C'était une porte ordinaire là, avec une fenêtre dedans.
D'accord. On demande, Louise demande, qu'est-ce que tu évoques deux gros chiens sur un petit trottoir? Pour elle, c'est un contraste un petit peu particulier. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi?
Non, pour moi, parce que la représentation du trottoir avant le perron, ici, c'est normal. Là. C'est une image normale, c'est comme ça, ici. Donc, pour moi, c'est je voyais quelque chose de connu. Là. En tout cas, moi, ça me fait pas de différence. Là.
Quel est ton sentiment par rapport au poil, au pelage de ces animaux dont tu as dit qu'ils étaient longs et lustrés? Comment ça te fait sentir? Comment est-ce que tu as envie de les toucher, par exemple? Quelle serait ta relation un peu à ce pelage-là?
J'avais une impression de douceur. C'est comme si j'allais les toucher. C'était doux, c'était lisse, c'était reluisant, c'était propre. C'était une impression de volupté aussi, parce que c'est le pelage, il se promenait au vent, puis de douceur, de... Oui, c'est ça.
Une question que j'ai ratée, mais qui est intéressante, est-ce que tu penses que les chiens voient l'individu près de la porte? Est-ce qu'ils le voient, l'homme? Est-ce qu'il y a une relation quelconque entre l'homme et les chiens?
Excuse-moi, veux-tu répéter un petit peu là?
Est-ce que les chiens, est-ce que tu as l'impression que les chiens voient l'individu, là, l'homme qui se cache? Est-ce que tu penses que les chiens l'aperçoivent?
Non, j'ai pas l'impression.
Non. Non. Et cet homme, est-ce qu'il y a un détail quelconque qui te vient par rapport à comment il est, à quoi il ressemble?
Non, pas du tout. Je ne l'ai pas vu. Tout ce que j'ai vu, c'est comme le côté de l'épaule un petit peu qui dépassait. Je dis que c'est un homme, mais en fait, j'ai pas vu que c'était un homme. Je pense que c'était un homme. C'est le sentiment que j'avais à ce moment-là, que c'était un homme. Mais je ne l'ai pas vu. C'est comme si j'avais l'impression que, vu qu'il se cachait, qu'il y avait de mauvaises intentions, finalement, c'était pas ça. Il n'y avait pas de mauvaises intentions parce qu'il a fait aucun geste pour entrer de force ou... c'est ça. Mais je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je voyais juste l'épaule. Il n'y avait même pas de couleur, là. C'était pas transparent, mais c'était une forme.
D'accord. Alors là, il y en a un point important, c'est que justement, il y a des détails du rêve, des fois on ne sait pas. Puis on suppose. Là. Mais on doit accepter que justement l'inconscient élabore avec le rêve. Donc là, c'est vraiment, on travaille avec l'idée que c'est un homme. Et du coup, y a une question d'Herbert là, qui circule, mais quel lien peux-tu faire avec ta relation aux hommes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien que tu peux faire d'une façon ou d'une autre avec ce côté caché, inquiétant, puis finalement qui s'avère moins inquiétant?
Ben, finalement, c'est sûr que je suis quelqu'un de divorcé, ça fait quand même plusieurs années, je vis seule. La seule chose que je verrais, si j'avais une peur, ce serait de rencontrer quelqu'un qui peut-être que j'ai peur de rencontrer aussi, je ne sais pas. Peut-être à cause de l'expérience que j'ai eue, je veux pas, je pense, c'est peut-être ça, mais faut dire que j'aime vivre seule.
D'accord.
Je suis une personne qui aime vivre seule parce que je fais beaucoup de croissance personnelle, des choses comme ça, puis l'effet d'être seule, ça me permet d'être plus à moi-même.
Au fond, ce que tu évoques, la peur que tu as quand cet homme force la porte, c'est la peur d'une invasion de domicile, c'est la peur d'une intrusion, si je comprends bien.
Ouais, probable, oui.
Est-ce que dans ta vie, à un degré ou un autre, tu ressens cette peur que ton espace personnel, que ton espace intime soit violé par une intrusion?
Peut-être. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas de cas là, spécifique là, qui me laisse penser ça. J'ai l'impression que c'est juste parce qu'on dit des fois, bon, ça arrive quand on s'y attend le moins. Alors peut-être que je veux pas que ça arrive. Je veux pas. J'ai peur que ça arrive, autrement dit. Mais j'ai pas d'expérience là, proche là, à l'heure actuelle qui me fait dire que c'est là, là. Mais peut-être que j'ai peur que ça arrive.
D'accord. Bon, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions Moi, il y a quand même y en a une qui me vient là. Ce rapport au noir et au blanc, qu'est-ce que ça te communique, toi, de voir ces chiens noirs et blancs? Comment tu ressens ça?
Pour moi, j'étais contente quand je me suis réveillée, puis que là, j'avais cette image-là, parce que pour moi, c'était une espèce d'harmonie. C'était une sorte d'équilibre. C'est comme si. Peut-être que je me suis dit que j'avais un certain équilibre intérieur qui faisait que mon équilibre intérieur était mon gardien, comme les chiens représentent le gardien, que je pouvais, je pouvais aller vers l'inconnu et que mon équilibre me protégerait. C'était le noir et le blanc, c'était ça pour moi.
D'accord, merci. Y a une très belle question, mais je la réserve juste un petit peu plus tard, la mienne, merci, parce qu'on va aller un peu dans les amplifications. Qu'est-ce qu'on peut, si on élargit, là on vient de regarder un peu les aspects personnels du rêve, et puis si on l'élargit maintenant à ces dimensions collectives, c'est-à-dire ce que les symboles peuvent nous enseigner par rapport à leur dimension collective. Parce qu'au fond, un symbole relie tout le temps quelque chose de personnel avec des choses universelles, le côté archétypal. Tout de suite, je ferai deux remarques. C'est qu'on a parlé des chiens tout à l'heure, j'ai parlé du côté psychopompe, mais les chiens sont aussi volontiers liés à la fidélité. Ce sont les animaux les plus fidèles à l'être humain qu'on connaisse, quand une fois qu'on a obtenu l'amitié d'un chien. Il nous est complètement fidèle. Il y a vraiment l'un des aspects généraux du chien, c'est un lien à la fidélité, aux compagnons, etc. Premier point. Autre point symbolique qui me paraît intéressant d'avancer, c'est que la maison, précisément, implique la notion du chez-soi par rapport à l'extérieur. Et en fait, c'est souvent un symbole aussi de la structure psychique dans laquelle on est, par rapport à ce qui est dehors étant comme l'étranger, l'inconnu, comme tu l'as nommé tout à l'heure. Ces deux éléments d'amplification, je crois aussi qu'un autre élément d'amplification, mais tu viens de le nommer très directement, Muriel, c'est ce jeu du noir et du blanc, c'est-à-dire du yin et du yang, et de l'équilibre, précisément, des deux polarités. Une des questions qui a été posée, qui je trouve résonne avec ces amplifications, c'est: quelle est la place de la fidélité en amour ou en amitié dans ta vie? Est-ce que c'est une valeur importante pour toi?
Bien sûr, c'est une valeur importante. C'est peut-être ça ma part. Parce que je l'avais pas vu encore ce côté-là quand tu as parlé de la fidélité. Je dis, peut-être que la part d'aller vers quelqu'un, c'est que j'ai peur qu'on me soit infidèle. C'est possible. Oui.
Tu veux dire que quand j'ai parlé de la fidélité, il y a eu un mouvement émotionnel, il y a quelque chose qui a bougé?
Absolument, oui. Bon.
Voilà, ça c'est vraiment dans les indices qu'on cherche, dans le travail. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions, et au fond les réponses sont évidemment importantes, mais ce à l'affût de quoi on est le plus, c'est vraiment la petite pointe émotionnelle, la petite chose qui vient signer. Là, on vient d'effleurer quelque chose.
Oui.
Alors, partant de là, comment vous comprenez le rêve? Je vous invite à proposer des interprétations à Muriel. Qu'est-ce que ce serait pour vous? On peut y aller vraiment en « si c'était mon rêve », de façon à... où on peut simplement dire, je pense que ce rêve veut dire. Quelle interprétation vous proposez à Muriel? On va en proposer plusieurs et elle va observer. Muriel, je t'invite simplement à observer justement ton détecteur sismique d'émotions. Allez, il y aura personne, de toute façon, va gagner le pompon avec la vérité du rêve. Je préfère ne pas dire le premier, mon interprétation, évidemment, j'en ai une à proposer, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure. Sonia qui dit, si c'était mon rêve, je me dirais que j'ai des chiens en moi qui sont mes gardiens et qui laissent passer uniquement les personnes qui ne me font pas de mal. Alors, c'est une interprétation. C'est l'idée que finalement, il y a ces gardiens à l'intérieur. Et que ils sont là et qu'ils veillent sur moi, finalement. Merci, Sonia. Une autre proposition. Monique qui dit, une inquiétude est là et pourtant il y a deux chiens en qui je peux avoir et j'ai une grande confiance. Ils sont fidèles. Alors j'ajouterais à ça, pour amplifier le fait que ce sont des chiens, qu'encore une fois, c'est une dimension instinctuelle. Donc, si je le retraduis à l'intérieur, et c'est pas mon interprétation encore, hein, je fais que essayer d'amplifier un peu les interprétations proposées là. Je pourrais dire, j'ai des instincts, j'ai un instinct fort qui va dans en lien avec cette question de fidélité et qui peut me rassurer par rapport à la présence de l'inconnu. En tout cas, j'ai cette dimension instinctuelle, voilà. Hein? Si on interprète, on essaye de traduire ce que sont les chiens. Jean-Michel qui nous dit, dans la peur, une partie de moi reste calme. Ah, ça, c'est une interprétation, voilà. Alors, là, on a une interprétation qui se ramasse. Ça, merci, parce que plus c'est concis, plus quelque part c'est efficace. Comment tu la reçois, celle-là, Muriel? Dans la peur, il y a une partie de toi qui reste calme.
Oui, ça me représente beaucoup. Oui, cette façon de réagir, c'est moi. Même si j'ai peur, je reste calme.
Est-ce que ça vient peut-être répondre à un questionnement ces temps-ci par rapport justement à tout ce qu'il peut y avoir d'inquiétant, le confinement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu découvres sur toi, parce que si tu le connaissais déjà.
Non, non, je le découvre pas. Ça fait longtemps que je sais que je suis comme ça. Quand il arrive un événement, je suis pas quelqu'un qui va réagir émotionnellement là. Puis non, je vais plutôt me retirer, regarder la situation. Ben c'est sûr que ça demande. Un acte vite, là, je vais le faire, mais normalement, je vais plutôt me retirer puis étudier la situation, rester calme, puis ensuite voir qu'est-ce qui est le mieux. Moi, je suis faite comme ça, mais je trouve ça intéressant que ça ressorte dans le rêve.
Mais il y a peut-être encore un quelque chose à aller chercher, alors. Alors moi j'irais avec l'idée que... je dirais qu'il y a la peur que cet homme cherche à entrer dans ta maison, mais je pourrais traduire ça symboliquement par la peur que quelqu'un cherche à entrer dans ma vie.
Oui, possible. Là, je vois personne, mais peut-être qu'il y a quelqu'un puis que je m'en rends pas compte. Je sais pas.
Il y a Dominique qui dit, si c'était mon rêve, je dirais que je projette à l'extérieur la possibilité du couple fidèle et harmonieux, mais une sorte de méfiance de l'homme m'empêche de l'accueillir. Et il y a Patricia qui dit, vas-y, oui, pardon, excuse-moi.
Non, j'allais dire, c'est possible, oui.
Oui, hein, donc, que à l'extérieur, le couple fidèle, le couple fidèle, ce couple de chiens fidèles. C'est une belle proposition d'interprétation. Hein?
Ouais.
Coupe de une fidélité qui harmonise le blanc et le noir, et cependant, ça paraît impossible de l'accueillir.
Ben, peut-être que pour moi, c'est un idéal impossible à atteindre, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça.
Il y a... Patricia qui propose, si c'était mon rêve, je deviendrais consciente de mon idée de couple où la fidélité, l'amitié, la beauté sont importants. Je ferme la porte au reste, mais en réalité, je suis ouverte au masculin et je reconnais que ma peur est juste le fait que je ne le regarde pas en face comme il est. Alors je garderai les chiens en vue, mais je serai courageuse d'aller voir le visage de cet homme.
Ah, c'est bien, merci.
Alors, je termine juste, je relis un des messages qui m'a été envoyé en privé, donc je le retranscris d'autant plus. Grande solitude et peur d'être en duo. Mmh. Je t'ai vu, Anne-Gaëlle, mais il y a Herbert qui avait levé la main avant. Herbert, tu veux nous dire quelque chose?
Oui, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que ça m'inviterait à me connecter aux hommes, non plus par la peur, mais par la confiance en ce que je suis et à mon talent de fidélité, d'harmonie et de m'asseoir sur toutes les nuances entre le blanc et le noir.
Merci.
Anne-Gaëlle, tu voulais nous dire quelque chose?
Oui, si c'était mon rêve, je serais intriguée par le fait que ces deux chiens, finalement, ils ont tous les deux du blanc et du noir. Il n'y en a pas un blanc et un noir. Et finalement, ils sont comme interchangeables. Et ça m'interrogerait ça, le fait que cette image rassurante d'un couple, ce serait de deux personnes exactement pareilles et interchangeables. Et celui que je devine, mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est un homme, mais en tout cas il est un peu caché. Pour moi, il a un rapport avec la surprise. Et je me dirais que peut-être une surprise, ça peut être quelque chose de bien.
Peut-être, oui.
Alors j'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque chose qui est souvent quelque chose qui peut ressortir d'une interprétation. On tourne autour d'une thématique, mais il y a comme une proposition de poursuivre le rêve, d'aller un cran plus loin, et que l'interprétation peut être d'une certaine façon, et c'est en ça que je vous parlais du fait que le rêve a une dynamique propre, qui pourrait appeler à un mouvement. Et j'ai l'impression, à travers ce que j'ai lu, en particulier la proposition de Patricia, et la façon dont j'ai le sentiment que ça a réagi, que la proposition du rêve, c'est que finalement, en ayant vérifié qu'il y a cette base de sécurité instinctuelle, quelle question c'est cette fidélité, en ayant vérifié que finalement l'homme ne cherche pas à faire, il pourrait y avoir une invitation à aller le rencontrer, à aller lui demander, que le mouvement suivant du rêve pourrait être, mais alors finalement, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Comment tu reçois ça?
Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, je vois personne dans mon entourage. Sauf qu'on parlait de surprise, ça peut être une surprise. C'est comme si ça m'invite à rester ouvert à la surprise, à aller vers l'inconnu. Puis aussi, c'est toi qui as dit que le fait qu'il y a blanc et noir interchangeables, non, c'est pas toi qui as dit ça. Je
suis c'est Anne-Gaëlle.
C'est Anne-Gaëlle, ok. Je me suis souvent dit que si je rencontrais quelqu'un, que j'aimerais qu'on ait beaucoup, beaucoup d'affinités, beaucoup de choses semblables, qu'on ne soit pas des opposés. À mon avis, c'était comme si j'ai vécu avec un opposé, puis j'aimerais avoir quelqu'un près de moi qu'on a énormément d'affinités, qu'on est semblable. Il me semblerait que la relation serait plus facile. Fait que c'est vrai que ce qu'elle a dit, ça rejoint un peu ce que je pense.
Donc on retrouve l'idée qui a été mentionnée tout à l'heure, que ce couple de chiens peut être comme recevoir la projection d'un couple dans la fidélité et dans cette identité un petit peu fusionnelle du couple. Il y a une remarque que j'ai aperçue qui me semble extrêmement intéressante. Quelqu'un qui a dit, il faut que j'essaye de retrouver, oui, c'est en acceptant ma peur que je peux aller dehors, rencontrer les chiens. Les ressources sont accessibles en même temps que j'ouvre ma porte à l'inconnu. Est-ce que ça résonne, cette interprétation ?
Les ressources ?
Alors, je répète, c'est aussi en acceptant ma peur que je peux aller dehors, approcher les chiens. Les ressources, donc c'est ce que représentent les chiens, cette sécurité, sont accessibles en même temps que j'ouvre la porte à l'inconnu.
Oui. En fait, ça me dit que j'ai peur pour rien, là. Que tout ce qu'il me faut est là. Il s'agit juste que j'accepte la rencontre, j'accepte d'aller vers. Enfin, c'est ce que ça me dit.
Marianne a levé la main.
Si c'était mon rêve, je ferais confiance dans la douceur et la beauté des chiens.
Et j'amplifierais ça à l'intérieur, en le ramenant à l'intérieur, en disant que je ferais confiance à la douceur et la beauté que j'ai à l'intérieur, ce sens de la fidélité, cet instinct qui est là. Qui est là, juste devant ma maison.
Merci, vous êtes tout encourageant, très encourageant.
Ça, c'est une des règles aussi dans le travail. Mon mentor de rêve, un vieux monsieur qui a plus de 80 ans, lui, il n'a pas écouté 80 000 rêves, il dit qu'il en a peut-être écouté 30 000 et qu'il n'a jamais trouvé un rêve négatif. Que si on sait entendre un rêve, ça nous parle toujours positivement. Même si c'est pour nous prévenir qu'il va se passer quelque chose de difficile, c'est généralement pour nous dire, tu vas voir, ça ira bien.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça te va, est-ce que ça t'a enrichi dans ta compréhension du rêve, cet exercice?
Oui. Oui, ça m'a enrichi dans le sens que il y a plein d'éléments que peut-être que je me disais, oh non, ça ne doit pas être ça. Oh non, ça ne doit pas être ça. Mais finalement, ça me ramène à oui, c'est ça.
Alors ça, c'est assez caractéristique aussi. On a vraiment tendance à écarter. Et c'est souvent dans ce qu'on écarte qu'on aurait intérêt à aller regarder. Donc en fait, le travail du rêve nous implique vraiment de nous rappeler que ce qu'on écarte, c'est assez généralement à partir de ce qu'on croit connaître. Et que comme le rêve cherche à nous parler de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas encore pleinement, on a vraiment intérêt à tester toutes les hypothèses. Et à les tester dans le ressenti et pas dans quelque chose qui dit non, c'est pas ça. Je terminerai avec... Il y a des messages encore qui s'accumulent. C'est génial ce type de travail, mais je ne fournis pas à lire tous les messages. Je laisserai peut-être la parole de la fin à un message qui a la dimension poétique peut-être du rêve. De Julie, si c'était mon rêve, je prendrais le temps de danser le mouvement du pelage, bercé par le vent, pour m'accompagner à recevoir l'homme, à faire confiance, à l'ancrer dans mon corps. Alors pour moi, ça c'est ce qui emmène au-delà de l'interprétation, hein, une proposition de le danser, le rêve, de le mettre dans le corps, parce que ce que déjà Jung et compagnie avaient remarqué, c'est qu'un rêve ne devrait pas rester juste une compréhension intellectuelle. Quand je vous disais que c'était une énergie, c'est une énergie qui veut participer à la vie et qui nous demande un peu, mais qu'est-ce que tu vas faire à partir de là ? Comment tu vas le vivre, ce rêve ? Et au fond, peut-être que c'est plus important quelque part de ressentir ce qu'il y a dans le rêve et de se laisser toucher par les émotions et ce qu'il y a dedans et que ça nous amène à un mouvement de vie que d'être capable de le comprendre intellectuellement et de dire « bon, j'ai compris, ce rêve, ça veut dire que ». D'ailleurs, vous avez vu, nous ne sortons pas de l'exercice avec une vérité du rêve. On n'a pas une interprétation finale. Mais avec un peu de chance, on a alimenté le mouvement intérieur de Muriel. Et Qui sait ce qu'elle nous racontera la prochaine fois qui est arrivée à partir de ce rêve.
Je vous remercie tous. Ça m'a bien aidé, puis je ne rebarrerai pas ma porte.
Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que quand je suis arrivé au Québec il y a 25 ans, on ne barrait pas les portes. Et puis on en est venu assez vite, tout d'un coup, alors que c'était un pays où on laissait la porte ouverte, comme il existe ouais. encore quelques coins dans le monde, assez rarement. Mais... Il est 20h15. Moi, je veux bien encore qu'on écoute un rêve. Si vous voulez qu'on prenne le temps d'écouter un rêve. Et on va conclure comme ça, mais on va aller assez vite, peut-être un rêve court. Et on va peut-être pas prendre tout le temps qu'on vient de prendre, mais offrir une interprétation à ce rêve un peu rapidement. Alors, qui c'est qui se propose?
J'aimerais remercier tout le monde avant, s'il vous plaît. Merci de votre participation. Ça m'a aidé beaucoup. Merci.
Et merci Muriel de proposer ce rêve pour le travail. Alors qui veut proposer un autre rêve court? Alors si c'est un grand rêve, juste un extrait du rêve, le cœur du rêve, parce que des fois ça suffit.
Si c'est possible, moi je me propose.
Eh bien volontiers.
Bon, c'est surtout parce que ça, c'était très étonnant et ce qui m'a resté de ce rêve. C'est hier soir, j'avais mal à la gorge et je me suis inquiétée parce que je pensais que j'étais malade. Et j'ai sorti une glaire, une très grosse glaire, bien épaisse et au début, je pensais que c'était du sang parce que les taches étaient violettes, foncées. Donc, j'ai regardé, j'ai touché et j'ai découvert en levant un peu la barbe que c'était des murs. Des murs, des grands murs, des gros murs. Et je les mangeais. Et c'était bon et sucré. Et ça m'avait. Étonnée et c'est avec cette et là je me suis réveillée et j'ai resté avec cet étonnement de ça de comment la singulière qui au début m'a produit une sensation désagréable et pouvait avoir une mûre très bonne très sucrée voilà.
Merci alors des intuitions première intuition qu'est-ce qui jaillit.
Moi,
ou... Non, on va offrir à tout le monde. On reviendra à toi, tu nous diras où tu en es avec les intuitions qu'on va proposer.
Eh bien, moi je veux bien parler, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, on entend.
Oui, oui.
Je pense qu'il y en a là parce que j'arrive pas à écrire. Moi ça me fait penser, je découvre là, tes explications, ça me fait penser à l'ombre, au rejet et à l'acceptation. Voilà.
Merci. Oui.
Sans aller plus loin.
Oui. Dominique à tout le monde, il y a quelque chose de mûr en moi. J'ajouterais qu'il réclame de sortir.
Oui. Oui, ça me parle beaucoup. Oui.
Un processus de transformation, dit Brigitte. Oui, il y a quelque chose qui est transformé, clairement. Tiens, on entend les oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez des oiseaux, vous aussi, mais des oiseaux qui chantent dans le micro. Bon, ils participent.
Moi, je penserais à quelque chose que j'ai... ça me fait penser un peu la gêne à quelque chose que j'ai... l'expression, j'ai quelque chose en travers de la gorge. Quelque chose qui en travers.
Ah ah, en travers de la gorge.
Voilà.
Quelque chose, ouais. Hélène qui dit il y a un fruit délicieux dans ce que je recrache. Patricia, le jeu des opposés, le dégoût et le goût sucré.
Je suis frappée par le fait que les murs, c'est des fruits magique qui pousse partout dans les fossés, dans les endroits où on ne fait pas attention. Je ne crois pas qu'on puisse faire pousser volontairement des murs. Ça pousse tout seul et c'est délicieux. Et si c'était mon rêve, je me dirais que je peux faire confiance à cette partie de moi qui pousse tout seul.
Merci.
Moi, je pense au fait que la gorge est très liée à l'expression. Et on dira au chakra de la gorge, mais vraiment donc. Ce qui m'interpelle, c'est ça. Je me dis, mais il y a quelque chose que j'ai besoin de trancher. J'ai beaucoup raisonné avec, j'ai quelque chose en travers de la gorge. L'ayant craché, alors que ça faisait mal en l'ayant à l'intérieur de la gorge, on dirait que je vais pouvoir y trouver quelque chose de bon à intégrer, à ramener à l'intérieur. Muriel. Lance, je me dis que ce que j'ai à offrir n'est pas bon et intéressant, mais je m'aperçois que c'est très bon.
Moi, j'ai une sensation aussi de deuxième chance, parce que je me dis à quel moment est-ce que je mangeais ceci pour que ça vienne à l'extérieur à nouveau et pas par la voie normale. J'ai une deuxième chance de déguster quelque chose que je n'ai peut-être pas apprécié la première fois. Voilà.
Alors, je propose qu'on arrête avec les intuitions. Déjà, Catalina, où es-tu avec ton rêve après avoir reçu ces résonances intuitives, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus frappé que d'autres, qui t'ont plus touché que d'autres? Où es-tu?
Je crois que c'est... on était très, très, très juste parce que précisément avant, on a discuté un petit peu avec Angaël et que je me sentais... silencieuse et je m'étais sécurisée dans les derniers temps, j'ai senti que je me suis tue pendant une période assez récente et j'avais peur de parler, j'avais pris peur à cause de tout ce qui s'est passé qui m'a mené à cette silence là. Et là, aujourd'hui, avec cette situation de confinement et tout ce qui se passe, il y a des choses à apporter, mais qui ont du mal à sortir. Et vraiment, ça, même le fait de ne pas le dire parce qu'il y a la peur, ça fait mal. Ça fait mal à la gorge. Mm-hmm. C'est la communication, c'est l'expression. Oui, oui, mm-hmm. Tout à fait. Merci beaucoup.
Alors déjà là, vous avez une illustration intéressante de à quel point les résonances souvent suffisent. Et moi, c'est ce qui a orienté mon travail vers l'éloge de rêve et le type de travail où on reçoit de multiples résonances et ça met en mouvement. Puis là, on vient d'avoir la réponse à la question du contexte que j'aurais éventuellement posé à Catalina. S'il y avait quelque chose qui la préoccupait plus particulièrement. Hein? Donc il y a ce silence et il y a la façon dont quelque chose a pu se serrer dans la gorge et que ça a fait mal. On a la question du contexte. On pourrait aller chercher pourquoi une mûre plutôt qu'une framboise. On pourrait discuter et on peut rester cependant avec la langue. On pourrait explorer le symbole en l'analysant. Catalina, t'as fait penser à quelque chose de particulier, les murs? Tu l'associes à quelque chose de particulier, toi?
Oui, en fait, les murs, toujours ça m'a étonné parce que moi, je viens de Colombie. Et en Colombie, les murs qui poussent, c'est des murs de 3 cm. Les 3 cm sont énormes. Et ils sont vraiment juteux, c'est incroyable les murs. Et ça pousse, comme disait Angaël, ça pousse partout. Et donc, pour un rien du tout, tu as beaucoup de murs qui sont vraiment un truc à quelque chose extraordinaire. Et qu'ici, quand je suis arrivée en France, je voyais les petites boîtes, les petites boîtes en carton qui coûtaient beaucoup avec 10 murs. Ça m'a toujours halluciné comment c'était possible ça. Et donc c'était un cadeau, c'était vraiment un cadeau. Il n'y avait que deux murs dans cette glaire, mais c'était un cadeau.
Bon. Voilà. Merci. Hein. On a quelque chose là vraiment. Hein. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire que les mots utilisés dans les rêves ont utilisent les homophonies. Donc il y a quelqu'un qui a renvoyé, il y a Louise qui a demandé mur, les murs, le fruit et mur, les murs qui séparent. Et ça pourrait faire partie de la question du silence et de la question de la communication. Il peut y avoir des murs qui empêchent de parler. Et puis on peut entendre aussi que c'est mûr. Il y a quelque chose qui est mûr, qu'éventuellement le silence a permis de mûrir quelque chose, et que quand c'est mûr, ça sort dedans, ça sort dehors, je veux dire, et que à ce moment-là, ça faisait mal, ça avait l'air d'être dégoûtant, mais finalement il y avait un cadeau là-dedans, un cadeau qui pouvait être ramené à l'intérieur. Donc c'est l'interprétation que je proposerais à un rêve comme ça. Vraiment, je crois qu'elle coule un peu de sens. On a vraiment l'illustration, mais ça sort dedans et m'interpelle, dit Patricia. Bah oui, j'ai des choses comme ça qui... Faut s'écouter aussi dans comment l'inconscient... Hein. Voilà, là on est devant un rêve. Merci pour cette proposition de rêve, il est magnifique. Parce que rien que les résonances et le contexte nous montrent que ça coule de source. Et puis après, quand on interroge juste le symbole un petit peu, qu'est-ce qu'il peut signifier de plus loin, les associations personnelles de la rêveuse, ah, c'est un cadeau. Ah, puis de là où tu viens, les murs, elles sont... Ah, mais parce qu'une grosse mur comme ça qui passe par la gorge, ça fait encore plus mal. C'est un... Ah, et puis on a tout ce jeu, ça fait partie des amplifications, ce jeu de la langue des oiseaux. Ah, le fruit, la mûre peut renvoyer au mur qui sépare dans la communication. Ça peut être un mur transformé. Le mur qui sépare a été transformé en fruit mûr. Et il y a quelque chose de mûr. Voilà.
Ah, Martine.
Martine, oui.
Il n'y a pas que les murs de Reims, il y a aussi les murs de Murier, qui sont des grands murs, et c'est un arbre. Et là, c'est autre chose, ces mûriers, ces feuilles, servent, enfin, il y a les chenilles du ver à soie, elles vivent dans ces arbres-là. Donc c'est tout différent. Tu vois, c'est des grands murs comme ça qui sur les... et voilà, donc je me dis qu'il y a quand même là quelque chose de la métamorphose aussi.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait. Merci Martine.
Bon, voilà, j'aime bien les dépassements, mais je crois qu'il faut quand même qu'on s'arrête. Je proposerai un autre rendez-vous dans 2 semaines, mercredi dans 2 semaines, les mêmes heures, où on repartira de là où on est, ce sera ouvert aux questions, aux rêves, et puis je vous introduirai au-delà de l'interprétation. Il y aura moins de théorie, la théorie a été assise aujourd'hui, on a un vocabulaire commun, et donc dans 2 semaines, je pourrai vous proposer ce qu'on appelle l'exercice d'écoute intérieure du rêve. Voilà, il y aura d'autres choses, et puis peut-être que 2 semaines après, il y en aura encore un autre, je ne sais pas, ça dépend un peu du confinement. Et de tout ça, il y a le printemps qui appelle dehors quand même un petit peu aussi là. Mais en tout cas dans 2 semaines, si tout va bien, je serai au rendez-vous et puis ça me fera plaisir de vous retrouver. J'avais mentionné quelques livres que je pouvais vous proposer. Je vais faire un partage d'écran rapidement pour vous proposer des lectures. Ah, puis je réalise qu'il y a un rêve que je voulais vous raconter que j'ai pas raconté, ce sera la prochaine fois. Vous voyez mon écran là actuellement, il y a une série de 6 livres que je propose, qui ça dépendra, ça conviendra peut-être pas à tout le monde, pas tous, donc c'est à vous de voir. Pour le travail jungien des rêves, je recommande vraiment profondément Marie-Louise von Franz, La voix des rêves, qui est un livre très accessible, c'est le troisième là dans ma liste, très très accessible. C'est une interview de Marie-Louise von Franz sur les rêves. Si vous avez envie d'explorer des dictionnaires de symboles, il y a le Chevalier Gerbrink, qui est un dictionnaire qui parle des symboles dans les mythes, dans les histoires de toutes les cultures. Et puis il y a Laurent Lachance, qui offre un rêve, signe et coïncidence. Alors lui, c'est plus des associations. Il vous dit, par exemple, vous regardez oiseau, et puis il dit oiseau, ciel, aile, graine, nid. Et puis ça vous fait faire juste des connexions. Si vous lisez l'anglais, il y a un livre remarquable de monsieur qui s'appelle Robert Johnson. Malheureusement, il n'a jamais été traduit en français, mais c'est Inner Work. Et c'est un manuel de travail des rêves qui est absolument remarquable. Il y a aussi ce livre que j'ai mentionné à propos du rêve que j'ai cité pour l'ombre. La part d'ombre du chercheur de lumière de Debbie Ford. Toute personne qui travaille dans la lumière, je dirais, devrait lire ce livre pour rendre plus consciente sa part d'ombre. Vraiment, c'est une recommandation importante. Elle ne parle pas de rêve, mais par contre, elle parle magnifiquement de l'ombre. Et puis, si vous avez envie de voler sur les ailes du rêve, de dépasser, alors là, la culture psychologique occidentale, pour aller goûter un peu ce que les peuples premiers peuvent avoir à dire sur les rêves, il y a ce livre remarquable de Robert Moss, Les Iroquois et le rêve chamanique, qui parle de la culture des Iroquois, des Amérindiens du Québec, de comment, quand les Jésuites sont arrivés, ils ont envoyé un message à leur hiérarchie en disant « on a un problème, parce que les Indiens ont un dieu » et ce Dieu leur parle, c'est le rêve. Et nous, ils avaient de l'humour, les jésuites, ils ont dit, nous, le rêve, le Jésus-Christ ne parle pas. Et ils n'arrivaient pas à concurrencer le Dieu rêve chez les Iroquois. Je mettrai la liste, de toute façon, et d'autres éléments en libre accès sur... dans le groupe, et comme je posterai l'enregistrement, vous retrouverez vous pourrez aussi les retrouver ces informations. Voilà, merci pour votre présence.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci.
Merci, Jean.
Merci beaucoup.
Merci. Bienvenue. Merci.
Bonne soirée.
Et j'espère vous revoir dans 2 semaines. C'est à votre gré. Ça fera vraiment plaisir.
Comment on va savoir la date et c'est la même heure
C'est la même heure dans 2 semaines. Mercredi, donc j'ai pas le... Attends, si on fait l'addition, on est le 15, le 29. Mercredi 29 à 17h. Et je le rappellerai de toute façon, de différentes façons. Merci.
Merci. Bonne soirée.
Un plaisir de revoir plusieurs d'entre vous et plaisir aussi de rencontrer celles et ceux que je ne connaissais pas. Donc, ça fait vraiment plaisir.
Oui, merci.
Donc, on se dit
à bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée, merci.
Ben merci Jika qui dit que c'était passionnant. Bon, moi aussi, c'est ma passion, donc c'était passionnant. Je suis... voilà. Merci, au revoir.